Le temps qui nous sépare du 22 mai de ce mois de juin a été quand même riche en événements dont je vais de manière assez rapide vous retracer l'historique. Donc nous avons tenu le 22 mai à Carnon une réunion publique avec une forte participation des Carnonais essentiellement bien sûr puisque c'est à eux que s'adressait cette réunion relative au schéma directeur. Et vous avez sur la table une brochure qui retrace les intentions du groupe de la majorité municipale pour conduire cette réflexion. Donc le but est de valoriser le cadre de vie, apaiser la station, faire de Carnon une station nature dans laquelle il fait bon vivre. J'annonce la tenue d'un premier atelier participatif le 9 juillet à Carnon, dont le thème est les déplacements et les équipements publics. Sur les 300 Carnonais présents, 80 bulletins ont été remplis pour des souhaits de participation aux ateliers de concertation. Dans le même temps, vous avez également sur votre table le projet d'administration, belle brochure. L'aspect visuel n'est pas l'essentiel, néanmoins il contribue à la lisibilité et aux intentions de ce schéma, de ce projet d'administration, qui est une démarche concertée, une démarche qui se fait pour et avec les agents territoriaux, la charte des valeurs, la manière dont, si vous voulez, la charte managériale est construite, ce travail, et avec des ateliers qui se déroulent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avec le cabinet Epistème qui suit cette affaire. Voilà, avec la vue de quelques... Bon, ça sera l'objet peut-être d'une analyse dans un autre temps. C'était purement informatif aujourd'hui, mais ce projet d'administration est une manière de revisiter les nouvelles pratiques, la mutualisation des énergies, puisque ça s'appelle synergie, et ces deux mains qui se tendent et qui se resserrent sont la preuve d'une solidarité dont la commune doit faire preuve dans le quotidien et les défis qui l'attendent. Nous avons eu le 25 mai un atelier hors les murs, un spectacle hors les murs avec l'animation Pchit en deux temps. Sur la place de la Libération, un spectacle avec une chambrée relativement confortable de 300 personnes. Peut-être un petit peu moins. Et le lendemain, un parcours de 4 spectacles courts sur des lieux différents de la commune, puisque l'idée, c'est d'avoir des spectacles vivants. Les objectifs, donc, étaient de permettre un accès au plus grand nombre à la culture et de découvrir les lieux privés pour une découverte inédite de la ville. Le tout étant fait en partenariat avec les compagnies en résidence à la crèche, qui sont un lieu de fabrique artistique. Voilà. Donc, c'était une première édition. Il y en aura d'autres, puisque cette édition était couronnée de succès. Le 31 mai, nous avons accueilli et animé une conférence-débat Air Climat. Vous savez que sur la communauté du Pays de l'Or, s'est tenue la semaine de la Green Week, il y a quelque temps, c'est-à-dire une démarche qui est un lieu de réflexion et d'animation dans le cadre du plan climat, air, énergie territoriale, du PCAET, pour justement, animé par des professionnels du CNRS, l'association Antiviste, le CHU de Montpellier, la compétence également de l'ADEME, et une cinquantaine de Melgoriens qui sont venus partager les préoccupations relatives à la qualité de l'air, avec un sujet que j'avais proposé, qui était justement la limitation des déchets incinérés à l'usine de Lunel-Viel. Cet atelier va se reproduire pendant une période de 2 ans et des préconisations seront établies avec des évaluations très intéressantes, notamment par les plantes, pour évaluer les pollutions, notamment, j'ai évoqué un deuxième sujet, c'était le CD189, où les 20 000 véhicules au jour qui transitent sont générateurs de pollution qu'il convient de combattre. Donc, je remercie certains d'entre vous qui étaient présents lors de cet atelier. Le 2 juin, c'est une fête de la nature. Nous avons eu, dans le parc paysager, nous avons accueilli à peu près 2 000 personnes avec des animations qui ont conforté les valeurs de la commune au niveau de tout ce qui est nature, tout ce qui est sensibilisation à l'environnement, avec une participation très soutenue des associations que je remercie, et notamment des ateliers municipaux où il y a eu un concepteur, quelqu'un qui a fait revivre les anciens 33 tours, qui a connu un vif succès pour en faire des pots de fleurs. Voilà, donc c'était pas mal. Puis la romerie, bien entendu, n'est pas passée inaperçue pendant 3 jours, avec cette année une petite innovation, le mot est faible, puisqu'on a eu une animation équestre qui a vraiment enchanté les 2000 participants environ, puisque c'était un spectacle gratuit avec Jean-François Pignon, qui est un artiste vraiment consacré. Voilà. Et donc, poursuite également des spectacles de flamenco sur la place qui ont connu pendant les 3 soirées un vif succès. Ouais. Ensuite, nous avons fêté pendant la romerie l'équipe de rugby des juniors qui ont gagné le challenge Philippot, qui ont été champions de France. Ça méritait un coup de chapeau. Nous en sommes très fiers et nous aurons l'occasion au point 39 de revenir sur l'attribution d'une subvention pour les aider à payer leur transport. Le 15 juin, certains d'entre vous étaient présents. Nous avons inauguré la salle polyvalente attenante à l'espace de la mairie annexe, la salle Rosa Parks, un écho en sorte à la figure célèbre qu'est Aimé Césaire, et en termes de parité, en termes de symbolique, Rosa Parks, qui a lutté contre la discrimination raciale, était une excellente référente en l'occurrence avec une compagnie théâtrale qui, avec talent, animait cette soirée. Le Carré Sport est la dernière innovation, la dernière manifestation samedi à laquelle nous avons, nombre d'entre nous, participé sur la place Cassan, à côté de la place Cassan, donc un cadre naturel exceptionnel avec la possibilité de développer des ateliers de musculation, d'équilibre, que ce soit du beach workout ou de la slackline, avec manifestement un intérêt qui ne s'est pas démenti pendant tout le week-end. Si on en juge par la participation des jeunes et des moins jeunes aux différents ateliers, ce n'est qu'un début. Jean-Albert pourra vous dire de manière plus détaillée le programme de l'extension de cette thématique Carnon ville sportive, qui justifie quelque part cette thématique dont nous avons été honorés, Carnon ville active et sportive. Voilà. Et puis ce même jour, en dehors de la régate de l'Estival qui a réuni 24 bateaux, et avec une recette de 734 € qui est allée à la Ligue contre le cancer. Donc nous avons le soir, j'en remercie les différents participants, et la symbolique du don, le soir nous avons inauguré le lancement, nous avons participé au lancement de la saison avec un temps fort pour l'office de tourisme. Je demande à Laurence, sa présidente, de vous en dire deux mots. Laurence ? Oui ? Et puis aussi ce qu'a gagné l'office de tourisme, dans quelles conditions la saison a été lancée.
Oui, merci monsieur le maire. Alors très vite, le lancement de saison s'est très bien passé. Pour parler du trophée, donc c'est avec grande fierté que nous avons reçu à Paris, à l'occasion du salon autonomique, le 13 juin, un trophée, puisque nous avons postulé indirectement, c'est en fait la directe et le conseil départemental qui nous ont présenté sans même qu'on le sache, pour le trophée tourisme accessible. Donc ce trophée s'adresse à tous ceux qui ont la marque tourisme handicap, donc il y a plus de 5000 structures en France, privées et publiques. Là-dessus, il y a 153 établissements privés ou publics qui avaient été proposés pour le trophée, et qui était réparti en plusieurs catégories. Donc après, il y a une sélection supplémentaire pour arriver à 6 catégories, donc petit hébergement, grand hébergement, restauration, loisirs de plein air, je ne sais plus lequel, et information touristique. Et ça s'arrête là. Et donc nous étions dans la catégorie information touristique, en lice avec d'autres très, très forts. Par exemple, nous avions Aix-en-Provence en face de nous, enfin, il y avait des gros offices de tourisme en face de nous. On n'était pas forcément partis très très gagnants, et c'est pour ça que je suis montée toute seule à Paris. Et donc chaque catégorie a gagné son trophée d'argent. Donc il y a eu 6 trophées d'argent qui ont été remis, un petit lot de consolation, et il y a eu le trophée d'or qui a été remis à mon vieux Carnon. Nous sommes passés premiers, toutes catégories confondues, sur l'accueil que nous faisons aux personnes handicapées sur l'office de tourisme, les 4 types de handicap confondus, puisque nous proposons un accueil pour les personnes malvoyantes, malentendantes, handicapées physiques, handicapées mentales. Voilà. Donc c'est une énorme valorisation que nous avons eue là, que j'ai le grand plaisir de poser devant moi. Je vais peut-être même le laisser pendant tout le conseil municipal, que vous voyez bien. Voilà, donc ça a été une grande fierté, ça récompense un travail ancien. C'est pas mon travail, je le reconnais, c'est quelque chose qui était déjà là avant que j'arrive, parce qu'il y avait vraiment une volonté de bien faire. Avant même que j'arrive, il y a déjà, par exemple, l'accueil au sein des salariés d'une personne très très lourdement handicapée, et c'est très très bien passé auprès des autres salariés, ce qui n'est pas forcément évident. Le temps où, de mon mandat, on a accueilli dans les effectifs une personne handicapée mentale, certains parlent langue des signes, on vient de s'engager dans Destination pour tous, voilà, donc il y a un travail qui à la fois avait été déjà amorcé, dans lequel je me suis inscrite, et voilà, on est récompensé pour ce travail, donc je suis très fière de vous le présenter aujourd'hui. Voilà, merci.
Merci Laurence, donc c'est une distinction qui rejaillit sur l'ensemble de la commune, et nous en sommes très fiers, d'autant qu'elle est unique. Voilà, dernier point, et pas le moindre, je voudrais rappeler de manière très solennelle que la vie démocratique est une des valeurs de la République et la manière de faire fonctionner ce conseil municipal. Et que, parfois, il arrive que, sur des dires totalement infondés, certains élus soient mis en cause de manière directe ou indirecte. Alors, il y a parfois des associations qui sont... qui ont leur mot à dire, qui, avec une certaine virulence, mettent en cause certaines personnes. C'est le cas d'une personne à Carnon Vive, Carnon Libre. Madame Gély et moi-même en sommes les objets. Nous sommes défendus, bien sûr, par la commune. Il y en a une autre. Je rappelle que, en termes d'éthique, toute personne qui siège dans cette instance est une personne, à ma connaissance, qui n'est pas une personne qui jouit de tous ses droits civiques. Et à ce titre, cette personne, toutes les personnes doivent respecter la déontologie. Sauf avoir des preuves qui accusent quelqu'un, on ne peut pas colporter des informations qui sont fausses. J'ai l'ordonnance d'un jugement, par exemple, qui dit que ma voisine, Madame Sanchez, bénéficiait d'un non-lieu qui a été prononcé le 18 mai 2018. Et sur notre ordre d'idée, je rappelle que quand on est élu, on ne doit pas écrire des choses qui sont diffamatoires. Elles peuvent être ensuite traduites devant des instances juridictionnelles. Donc, je suis tout à fait d'accord pour un débat sain et démocratique. La démarche que nous menons sur Carnon comme sur Mogio est d'apaiser l'espace public. Mon rôle de maire n'est pas de cultiver les procès d'intention ou les mauvaises rumeurs. Et à la lecture de certains documents, je me réserve dans les temps à venir. Ce n'est pas du tout menaçant, c'est simplement une information qui n'appelle aucun commentaire. Je ne donnerai la parole à personne. Je rappelle que cette instance est un lieu de démocratie, de débat, où on ne peut pas se permettre, sur des dires, de raconter que quelqu'un est coupable ou que quelqu'un fait ou touche de l'argent ou profite de prébendes ou est mandaté pour faire des choses qui ne sont pas du tout réelles. Voilà. Donc, nous aurons, j'espère, l'occasion d'évoquer ces débats dans un climat, j'espère, serein. En tout cas, moi j'y veillerai. Parce que l'honneur des personnes autour de la table, quelles que soient ces personnes, que vous soyez dans le groupe majoritaire ou dans le groupe qui ne l'est pas, tout le monde a droit au respect et surtout au traitement de l'information saine et objective et juste. Voilà. Donc nous allons passer. Je vous donnerai, en dehors du conseil, je vous donnerai des éléments si vous voulez. C'était une information, ce n'était pas du tout aujourd'hui, je n'ai désigné personne, chacun se sera reconnu. Projet de délibération. Projet de délibération. J'informe. Voilà. Bah, écoutez, je compte sur votre intelligence.
Il ne faut pas non plus.
Donc, décision municipale. Point 40. Vous avez les décisions municipales donc, qui sont inscrites à l'ordre du jour, qui sont relatives au contrat de spectacle pour ce qui est de la Romerie. Vous avez ensuite du spectacle Pchit. Vous avez ensuite les dispositions relatives à l'occupation du domaine public, les contrats de spectacle à venir, la médiathèque Gaston Bessette, et ensuite les marchés à procédure adaptée sur les différents marchés qui ont été attribués de 25 000 à 90 000. Ou les procédures adaptées supérieures à 80 minutes. Voilà. Si certaines appellent des remarques, vous êtes invité à les formuler. S'il n'y en a pas, donc nous passons au point numéro 1, qui est le compte de gestion que va vous exposer Madame Favier. Caroline, s'il te plaît.
Alors, le compte de gestion pour la commune de Moggio, compte de gestion 2017. Donc, pour rappel, le compte de gestion, c'est le document comptable qui retrace l'ensemble des écritures passées par le receveur de la collectivité tout au long de l'année civile, donc de l'année 2017. Il est à ce titre le double du compte d'administratif, qu'on verra ensuite. C'est l'exécution budgétaire. Les écritures comptables retracées dans le compte de gestion tenu par le receveur sont conformes aux écritures comptables passées dans le cadre dans le compte administratif tenu par l'ordonnateur. Le compte de gestion pour 2017 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc on vous demande de bien vouloir accepter le compte de gestion. Oui, le détail, c'est quant à
l'administration. Monsieur Bredel, oui, c'est explication de vote, parce que vous ne le présentez pas comme d'habitude. Traditionnellement, je ne vote pas le compte de gestion, pas parce que j'aurais quelques griefs que ce soit par rapport aux impôts, mais parce que comme il est la décalque du compte administratif, si je ne vote pas l'un, je ne vote pas l'autre. D'habitude, vous ne faites pas cette présentation, donc mon vote pourrait sembler bizarre. Voilà mon explication.
Dites-le après. On commence par le compte administratif. On le votera après.
Si vous voulez.
Allez, commencez par le compte administratif.
Donc,
on n'est pas compliqué. Dans le formalisme, allez.
Le compte administratif 2017. Alors, qu'est-ce que le compte administratif ? Le compte administratif dresse le bilan des dépenses, c'est-à-dire les mandats et les recettes, les titres effectués par la collectivité sur un exercice donné. Donc là, en l'occurrence, c'est l'exercice 2017. Il permet d'apprécier la réalisation et la gestion effective du budget voté et constitue un arrêté des comptes de l'ordonnateur. Le compte de gestion, donc quant à lui, retrace les comptes tenus par le comptable et la situation patrimoniale de la ville à la clôture de l'exercice. Donc dans un contexte contraint pour les collectivités, nous avons fait le choix de ne pas avoir recours au levier fiscal pour financer les services de proximité et nos grands projets d'investissement, c'est-à-dire de ne pas augmenter les impôts. Nous concentrons nos efforts plutôt sur notre gestion, c'est-à-dire le pilotage de la masse salariale, l'optimisation des dépenses, l'équité fiscale et la gestion active de la dette. Donc, pour tout ça, vous avez reçu une note de synthèse détaillée du compte administratif. Moi, je reste à votre disposition à la fin de ma présentation si vous avez des questions et je vous propose de vous faire plutôt une présentation. Je vais aller plutôt à l'essentiel, c'est-à-dire les points importants à soulever. Donc, en termes d'environnement contraint pour le secteur public, il y en a plusieurs. Les collectivités, depuis 4 ans, ont subi des efforts sans précédent, vous le savez, pour contribuer au redressement des comptes publics. Pour Mobio, ça a représenté 1,5 million d'euros de dotations en moins entre 2014 et 2017. Le coefficient de revalorisation des bases de fiscalité a augmenté de seulement 0,4% en 2017. Or, c'est une de nos recettes principales. Il évoluera par la suite. Alors, selon l'inflation française constatée en novembre avant le vote de la loi fiscale, donc pour vous donner une donnée plus précise, en 2018, ce coefficient de revalorisation sera de 1,2%. Nous avons des contraintes qui sont imposées et suivies pour les collectivités au niveau des dépenses de fonctionnement. Nous avons, comme par exemple la hausse des points d'indice, une réforme de la taxe d'habitation, je crois qu'on en a déjà bien parlé sur cette année. Alors, normalement, ce sera sous forme de dégrèvement et chaque euro sera compensé par l'État, mais il pèse encore une incertitude importante sur la pérennité de cette ressource à long terme. Notre plan pluriannuel d'investissement qui est dynamique et qui propose des équipements structurants pour la commune. Et enfin, notre projet de grande envergure résultant de l'intégration du schéma directeur pour Mobio et pour Carnon dans le PPI de la ville qui seront financés en respectant les équilibres financiers sans augmentation d'impôts. Alors, l'un des indicateurs qui est majeur pour la santé financière d'une commune, c'est l'état de nos épargnes. Nos épargnes sont bien positionnées sur la période de 2017, toujours. Sur la période... C'est vrai que ça amène un peu de fantaisie sur ma présentation, je vous l'accorde. Sur la période, les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de manière plus dynamique que nos recettes réelles de fonctionnement. En effet, nos dépenses augmentent de 1,58% sur 2017 lorsque nos recettes augmente que de 1,24%. Ces évolutions caractérisent le mouvement baissier de l'épargne de gestion sur la période. Donc c'est pour ces raisons que notre épargne de gestion baisse. L'épargne de gestion passe de 4,5 millions en 2014 à 4,2 millions en 2017. Notre épargne brute se stabilise entre 2014 et 2017. Pourquoi ? Parce que les intérêts de la dette, eux, ont baissé. C'est ce qui nous permet de compenser. Quant à l'épargne nette, alors l'épargne nette, elle, tient compte du remboursement du capital de la dette. Donc, elle poursuit sa progression en raison, forcément, de la diminution du remboursement du capital de la dette entre 2016 et 2017. Donc, on le redit, la collectivité n'a contracté aucun emprunt sur les 3 années. Le taux d'épargne brute signe une bonne santé financière et reste très satisfaisant. Il est de 14,47% en 2017. Au niveau de notre encours de la dette. Alors, une baisse de l'encours de la dette favorise un ratio de désendettement qui est toujours très bien positionné. La collectivité n'a contracté aucun emprunt sur la période et notre capital restant dû diminue. Donc en 2014, nous avions un capital à rembourser de 16,9 millions et en 2017, il est à 11,7 millions d'euros. Notre capacité de désendettement en 2017 représente 2,8 années. Donc ce ratio doit être analysé au regard du PPI, notre plan d'investissement. Pourquoi ? Parce que nous devons quand même financer 25 millions d'euros de dépenses d'investissement entre 2018 et 2020. Ces dépenses sont financées par le fonds de roulement, par les subventions d'investissement, par le FCTVA et les taxes d'urbanisme. Et en fin de mandat, si l'intégralité des sommes prévues sur notre plan d'investissement est réalisée, là, la capacité de désendettement passera à 7 années. Au niveau de nos dépenses de fonctionnement, elles sont majoritairement liées aux dépenses de personnel, aux charges de personnel. Nos charges de personnel représentent 60,5% des dépenses de fonctionnement. Elles constituent le principal poste de dépenses. Elles subissent les effets des décisions qui sont prises au niveau national, comme par exemple la revalorisation des catégories A et B, mais aussi les rythmes scolaires, la revalorisation du point d'indice, et également au niveau des décisions prises par la collectivité, c'est-à-dire les départs en retraite, les recrutements et les remplacements.
Pourquoi ils ont baissé entre le BP et le CA ?
Pardon ?
Pourquoi ils ont baissé entre le BP et le CA ? Significativement de 300 000 euros.
Entre le BP et le CA ?
Ouais, les exceptions de 300 000 euros.
Il y a un cas qui est lié au différé parfois de recrutement.
300 000 euros ?
Oui, il y a plusieurs,
Il y a toujours un décalage dans les recrutements. Entre le moment où la personne part et le moment où la nouvelle personne arrive, il y a toujours un décalage. Et ces décalages cumulés expliquent majoritairement ce différence.
Oui.
Ça
fait le paillet pour son numéro.
Mais parfois, c'est...
14 millions. Ça met du bord à définir. Parce qu'au jour, il a passé une demi-heure pour trouver 250 000.
Ça fait 2%.
Non, mais tu capes il a passé une heure de trucs à chercher et trois quarts d'heure à exposer pour trouver 300 000.
Non, rectification,
c'est 450 000. 450 000. Mais moi, j'ai trouvé 350 000 pour le CA.
Ce n'est pas une économie. C'est,
on met le temps, monsieur.
On vous dit que c'est un décalage, de réalisation. Voilà. J'aurais préféré. Ça serait bien. Pour les millions. Hein.
Alors, les charges à caractère général, elles représentent 23% du budget. Elles comprennent tout ce qui est contrat conclu par la ville, l'électricité, l'eau, les frais d'entretien des locaux et des bâtiments, les achats de fournitures, les fournitures scolaires. Leur variation est influencée en partie par l'inflation et les prix des fluides. Les autres charges de gestion courante, qui représentent 10% du budget, correspondent aux subventions versées par la commune, à ses participations aux différentes structures, les syndicats, l'OMT, le CCAS. Les subventions versées représentent 6% du budget et évoluent de plus 1,77%. Les charges financières représentent 2% du budget. Elles évoluent en fonction de la politique d'endettement de la collectivité et des variations des taux d'intérêt. Elles sont en baisse en 2017. Les atténuations de produits, alors ça vous avez vu, la ligne augmente de façon exponentielle. C'est du fait de l'augmentation du FPIC en 2017. D'environ 80 000 euros et de la pénalité sur la loi SRU de plus 422 000 euros. Ces augmentations sont limitées par la baisse des intérêts de la dette, puisque les intérêts baissent de 11,82%, c'est ce qui compense. Les mesures qui seront à prendre en 2019 pour permettre à la collectivité de limiter ses dépenses de fonctionnement à 1,2% maximum, on en a déjà parlé ici, c'est l'objectif à atteindre. Au niveau de nos dépenses d'investissement, notre taux de réalisation, en tenant compte des marchés engagés, est de 81%. Nos dépenses d'investissement évoluent de 31,14%. En conclusion, sur le compte administratif, ce qu'il faut retenir, c'est que la commune s'est engagée dans une politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de préserver les équilibres financiers et d'atteindre la fameuse évolution plafonnée à 1,2% à partir de l'année prochaine. La maîtrise de la masse salariale permet de combiner à une maîtrise des charges de la dette, de compenser l'évolution exceptionnelle, on l'a vu, du FPIC et de la pénalité sur la loi SRU. Si les recettes réelles de fonctionnement ont accusé une baisse de 2,66% en 2016, elles évoluent timidement en 2017 de façon positive de plus 2,44%. L'évolution des bases, physiques et nominales, peine à compenser la baisse de la DGF. L'action sur les tarifs, tout ce qui est augmentation des redevances, des concessions de plage, la mise en place des parkings payants, permet de compenser la baisse des recettes. Le travail mené sur la place de l'usager dans le financement des politiques publiques porte ses fruits, puisqu'il permet une approche nouvelle du service public et équitable pour le contribuable, puisque, je vous le redis, nous n'avons pas augmenté les impôts pour réaliser tout ça.
Voilà. Merci Caroline. Donc avant de passer au vote, est-ce que vous avez des remarques à faire, des interventions, Monsieur Frappoli?
Quand vous dites que les impôts n'ont pas augmenté, c'est le taux de calcul qui n'a pas augmenté.
Le taux qui a été voté.
Oui. C'est-à-dire que si les impôts devaient baisser, c'est ce taux qui devrait baisser. Donc a priori, on sera toujours sur le même taux de calcul. Ben oui. Donc. Le taux de calcul des impôts, il est à 10 et quelques pourcents, je crois que c'est ça. 10 et 3, quelque chose comme ça.
Le taux.
Le taux, voyez-vous. Si on doit, si les impôts.
Il y a deux taux. Il y a même trois taux.
Mais disons, tant que les taux ne baissent pas, les impôts ne baisseront pas. On gardera toujours le même taux de calcul des impôts. Ouais, sommes d'accord. Ouais.
Voilà. Excusez-moi, pour les dire différemment, comme vous avez augmenté de 500 000 euros en début de mandat, l'augmentation, elle perdure. Donc on reprend encore 500 000 tous les ans, jusqu'à ce qu'on les baisse. Or, dans votre budget, les 500 000, ils ne sont pas obligatoires quand on regarde. Alors moi, je veux bien que vous me racontiez qu'il y a un décalage sur la masse salariale des fonctionnaires. Normalement, la masse salariale, je veux bien qu'il y ait un décalage. Il faudrait bien que vous expliquiez le détail du décalage. Parce que la masse salariale des fonctionnaires, normalement, on doit pouvoir l'anticiper un peu plus finement que ça. 300 000 euros, ça fait beaucoup. Votre augmentation de l'impôt, c'est 500 000. Hein. Après, moi, j'ai vu un autre point sur le fonctionnement. J'ai vu une autre question. C'est par rapport au parking. J'ai vu qu'il y avait un décalage de 50 ou 5 000 euros, je ne me rappelle plus.
Non, une augmentation de recettes.
Non, un manque à gagner. Un manque à gagner sur les parkings.
Je regarderai. Comment un manque à gagner?
On a encaissé plus que l'année dernière. Et bien, je pense qu'on a. Non, pardon. Il y a eu moins d'entrées que ce qui était prévu au BP. Exactement. Si on parle budgétaire, je vous le dirai exactement. Et c'est de l'ordre de 50 000 euros. Donc je me suis posé la question de ce mauvais report.
On est sur 2017.
Oui.
Je pense que c'est le parking du petit travers. Oui. C'est le petit
travers. On a levé la barrière autre jour, je crois. Il y a une perte de recettes importante.
Oui.
Oui. On a eu un problème technique, effectivement. Oui. Qui a fait qu'on n'a pas encaissé des recettes.
Non, pas de trois jours. Ça, c'est un accident qui ne se reproduit pas.
Non, on a affecté davantage de personnel pour accompagner les personnes à la sortie des parkings, où parfois l'embouteillage a créé des non-acquittements de stationnement.
D'accord,
c'est ça.
C'est 100 000. Ah, j'ai dit, on me dit 100 000. De décalage entre ce que vous annonciez au BP, ce que vous réalisez et
votre incarnation.
Oh, je vais regarder dans le.
On a eu moins, c'est sûr, oui. Mais pas.
C'est ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave qu'on ne soit pas tout à fait d'accord. C'est grave si on ne trouvait pas où était la difficulté. Là, si on sait où elle est, il n'y a pas de problème. Sur les 500 000, moi, les 500 000 d'augmentation du début de mandat, au vu de votre compte administratif, je persiste à dire que l'augmentation n'était pas nécessaire. Vous vous retrouvez avec un fonctionnement où on voit qu'il y a de la marge.
Alors attention, la marge, attention, il y a beaucoup d'investissements qui sont prévus et qui vont absorber ce que vous appelez la marge. Attention.
Moi, ça, je veux bien, mais autant un budget, c'est un poème, autant un code administratif, c'est un acte légal, vous voyez ce que je veux dire. C'est le réaliser, il y a le code de gestion derrière qui dit vérifier. Donc là, le code de vérifier, je vais pas prendre les investissements dans le détail, mais dans le réaliser, vous envisagez dans le mandaté d'être sur cette année, sur l'année 2017, à 5,5 millions. Et vous arrivez à me passer à peu près 2,5 hein, sur l'impôt qu'on lève. Je ne vous parle pas de ceux que vous réaffectez de l'année de 2016. Donc on voit que dans votre fonds de renouvellement, vous n'arrivez pas à décaisser plus d'argent. Donc c'est de l'impôt qui n'était pas nécessaire de lever, ni en 16, ni en 17. Ni en 14, ni en 15, ni en 16, ni en 17. Ce n'est pas nécessaire, hein, puisque vous n'arrivez pas à le passer. Et vous arrivez à peu près à passer 4,5 millions. Ce qui n'est pas beaucoup hein, en termes d'investissement par rapport à d'autres villes. Si vous prenez une grande ville comme Mulhouse, par exemple, où il y a beaucoup de maisons, ils arrivent, eux, à passer, en réaliser, 750 000 sur un budget de 1,7 million. Donc ça, ils ont des ratios qui sont vachement plus agressifs que les nôtres. Nous, on est, On n'arrive pas à passer les 5 millions sur 34 ou 35 millions d'exercices de budget. Donc en investissement, on est faible. Et quand vous... Et
vous quand, comparez les
des
indices avec les différents strates comme ça, c'est pas possible.
Et ça nous donne un ordre de grandeur.
Non.
Ça nous donne ce que c'est. Oui, effectivement, vous, ce que vous dites... Vous dites on n'a pas forcément besoin d'un certain produit, donc on va baisser les impôts. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'en 2019, on va être obligé d'emprunter. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'en mettre un petit coup, on sera obligé d'en mettre un gros coup. Et le jour où vous avez une trésorerie d'avance, un petit peu, vous dites, allez, on fait une pause, on baisse un petit peu, on reprend. Les gens ne s'y retrouvent pas. Ce n'est pas un argent qu'on dilapide. Il y a quand même... Les exercices budgétaires doivent se lire sur une mandature. Ils ne doivent pas se lire sur l'annualité de l'investissement, vous le savez. Il y a beaucoup de chantiers pour des raisons administratives, généralement, et de procédures, qui prennent du retard. Et effectivement, les emprunts qu'on aurait dû peut-être faire cette année, on ne les fera, par pompe verte, par exemple, qu'en 2019. Oui. On ne peut pas faire le yo-yo dans « je baisse, je augmente oui. ». En sachant qu'on a été, et je finis, on a été raisonnable, je pense, dans l'exigence du taux que nous avons relevé en début de mandature, sur lequel on ne reviendra pas.
Sur la manière de gérer. D'abord, on a une obligation budgétaire, c'est l'annualité. Donc le législateur, il considère que l'annualité, c'est une bonne unité de mesure. Donc chaque année, on doit dire... Moi, ça me fait mal au cœur, je vais vous donner un exemple. Ça me fait mal au cœur quand vous mettez au budget le fossé nord, pour la prône de Mogio, et qu'après, vous annulez la dépense. C'est un fossé qu'on aurait pu faire, On aurait pu le faire tout de suite, puisque c'est de la sécurité, on sait qu'on sera amené à le faire et qu'il n'y a pas de problème. Moi, chaque fois, je ne vais pas vous reprendre le jardin du Bosquet à Carnon. À chaque fois, je dis ce coup-ci, c'est bon. Je vous crois à chaque fois. Je suis à deux doigts de dire. Et à chaque fois, vous me répétez, mais l'année prochaine, c'est bon, promis.
Monsieur Pradel, j'ai un point où je vais vous parler du jardin.
Donc, par rapport à ça, ce que je veux dire, le jardin du Bosquet, ça pourrait. Sur. Après, en termes économiques et en termes d'impact de la collectivité sur l'économie, quand on a traversé la crise, les entreprises mondiales auraient peut-être été contentes qu'on décaisse un peu plus fort. Et je veux dire, souvent, moi je me souviens du gouvernement Sarkozy qui a passé des accords avec les collectivités locales pour accélérer les investissements. C'était pas bon économiquement. Non, mais je dis Sarkozy parce que c'est une borne plus à gauche que Capelletti. Mais à un moment, dans l'intérêt du pays, tout le monde a accéléré. Deuxième point, vous avez passé sur le FPIC, vous avez passé rapidement en disant oh, c'est compensé, on n'en parle pas.
Non, il n'y a jamais de logique, elle n'a jamais dit ça.
Il y a le FPIC, mais on le compense par le service de la dette.
Non.
Le FPIC, c'est perdu, qu'on sait bien.
On est bien d'accord. Mais
malheureusement,
le FPIC, moi, je veux bien qu'on le retravaille. Parce que je suis sûr que sur les critères du FPIC, on peut améliorer les critères de Mogio si on fait des investissements les plus judicieux, entre autres le rajeunissement de la moyenne. Alors, monsieur le maire me dit toujours, mais ça ne dépend pas de la commune, ça dépend de l'agglomération. C'est votre argument principal.
Avec le coefficient d'intégration fiscale, le CIF,
oui. C'est ça. Mais sauf que celui de Mogio est le pire du pays de l'or. Si on améliore Mogio, on améliore tout le pays de l'or. Donc si on fait venir des gens plus jeunes et qu'on les établit, si on fait des investissements judicieux qui permettent de relocaliser des enfants à Mogio, vous avez une baisse et vous aurez un impact sur le FPIC. Et ce n'est pas neutre l'impact sur le FPIC. Là, il y a un travail budgétaire à faire. Il faut choisir pour prioriser nos investissements pour faire baisser le FPIC, qui est quand même une voie d'eau et qu'il faut traiter. Donc tout ça... Le fait de le non-investissement, c'est une critique majeure qui a un impact économique, qui a un impact budgétaire. Vos prédécesseurs investissaient le double à Mogio.
Oui, tant et si bien qu'on se retrouve avec 424 000 euros de frais à payer, de carence, dites à vos voisins de gauche qui nous aident plutôt à faire davantage de logements et de maisons qu'on en a fait dans les 20 dernières années. Là, vous parlez d'or, c'est Pradeil, évidemment. C'est facile de parler comme ça.
Mais vous rigolez ou quoi?
Non.
Je vous dis à chaque fois, je vous attends
pas. Monsieur Bello vous dit, c'est que les programmes que nous avons, ce sont des programmes conséquents. Et parfois combattus.
Donc, nous pouvons
parfois bien tardif. Je vous l'ai dit, ça fait 10 ans que vous pensez à la fonte de Moguio. Vous êtes fait jusque ça. Sur les 30 hectares qu'il y avait, il y en a la moitié qui sont passés en inondable parce qu'on n'a pas fait les travaux de mise en sécurité en hydro en amont. On les aurait fait il y a longtemps. Les 30, si ça se trouve, le préfet ne piquait pas 15 hectares.
Ah, mais il est certain que les prescriptions en 2006 n'étaient pas celles qu'elles sont en 2018. Et je crains que dans les années qui viennent,
donc vous êtes d'accord
le champ du possible se réduise de manière drastique.
Vous pouvez me rejoindre sur le fait que plus si on investit de manière cadencée, on a des marges de manœuvre. C'est ce que je vous reproche. Après, bon, je ne pourrais pas gérer ça comme ça. Je vois bien que vous essayez de tenir au mieux. Mais c'est ce qui fait le sel de vos ennuis, c'est le manque d'investissement à la base. Et c'est la réduction des investissements depuis 10 ans qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des difficultés. Et c'est pas autre chose.
Monsieur Capelletti.
Oui, alors j'avais dit en 2015 qu'il y avait d'autres leviers que les hausses d'impôts. Et je suis content que certains collègues me rejoignent.
Mais on est ensemble sur la même liste, deuxième tour.
Deux ans. Sur cette question, en 2016, j'étais bien seul.
C'était notre programme, on l'a.
Enfin, vous parlez bien, monsieur Bradet.
En fait, dans la présentation, bon, ça se voit de toute façon, madame Fadier, elle est transparente, donc en fait, les diminutions de dotation sont complètement compensées par l'augmentation, c'est ce que je voulais dire, l'augmentation mécanique des hausses d'impôts, pas dû à vous, mais dû à Bercy, plus la croissance, plus l'augmentation que vous avez décidée en 2015.
Vous ne comprenez pas.
Et pas, ah si, ça fait 1,5 million à peu près. Plus par ailleurs, donc les économies que vous avez faites, c'est vrai, plus la réduction de la dette, etc., qui fait qu'on aurait pu, grosso modo, effectivement, sans casse, éviter l'augmentation d'impôts qui nous aurait rapporté par ailleurs en pouvoir d'achat local. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, on en a discuté en commission, vous savez qu'on a ce fameux, donc évidemment, ça n'apparaît pas en 2017, mais il faut l'anticiper sur 2018, donc le trésor caché, dont faisait allusion mon collègue Pradel, donc des 16 000 heures de production de services publics supplémentaires pour 2018. Alors on est à 6 mois, se sont passés, la valeur de ces heures, vous savez, c'est entre 450 000 et 600 000 euros si on prend la valeur ajoutée créée. Donc la question c'est, est-ce que ces heures sont mesurées, est-ce qu'elles sont passées en économie, sous-traitance qu'on ne fait plus, contractuels qu'on ne renouvelle pas, ou est-ce qu'elles sont passées en activité nouvelle mais qu'il aurait fallu payer par ailleurs sans cette augmentation de taux, pour en fin d'année, c'était la proposition que vous avez faite, ce trésor, en fait, le répartir équitablement en baisse d'impôts, je pense, une partie, et en prime pour les agents méritants qui se sont investis, effectivement, cette année. Voilà, ça c'est un point. Donc là, on parle de le concept de coût performance caché, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans le bilan, mais qui, dans le budget, mais qui représente, en tout cas si on prend cet exemple, ceux qui ont été cités de façon tout à fait pertinente, ce soir il est en grande forme, par mon collègue Pradel, effectivement, qui représente...
Pradel, c'est à lui, hein,
quand il a qui représente, je te prononcerai correctement, je prononcerai correctement le mien. Voilà. Il me massacre mon nom à chaque fois. J'en ai marre. Voilà.
Bien. Bon, merci pour ces éléments. On passe au vote. Qui est contre? Oui. Tu veux sortir?
Eh bien, je sors.
Oui, madame Soyer, je vous charge de présider la
chambre. Tu peux vous dire, il n'est pas là. Il n'est pas là. Tu peux vous dire. Oui.
Alors on passe au vote. Qui vote pour? Non. Bah ouais, pour une fois c'était positif au moins. Allez, qui vote contre? Ouais. Abstention. Merci. Merci.
fond, parce que au compte de gestion. Du coup, on revient au compte de gestion.
Merci. Donc, j'invite Madame Favier à reprendre l'exposé du compte de gestion.
Donc, le compte de gestion, a été certifié par le receveur, conforme par l'ordonnateur, et n'a pas ni observation ni réserve de sa part. Donc, je vous amène à voter le compte de gestion.
Il y a qui préside maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe maintenant au port, peut-être, non?
D'abord l'affectation.
À l'affectation des résultats.
Ouais, des résultats. Donc le compte administratif 2017 adopté lors de notre séance présente des résultats identiques, c'est-à-dire un excédent d'exploitation d'un montant de 7 357 007,07 €. Un déficit d'investissement d'un montant d'1 536 615,54 €. Des dépenses engagées non mandatées dans la section d'investissement d'un montant de 4 645 350 €. Et des subventions notifiées non encaissées dans la section d'investissement d'un montant d'1 703 200 €. Donc après avoir pris connaissance du compte administratif de 2017, je vous demande de bien vouloir statuer pour affecter définitivement le résultat d'exploitation de cet exercice.
Merci Caroline. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
S'il vous plaît.
Monsieur Frappoli.
Excusez-moi, on n'aurait pas pu avoir un compte significatif entre Carnot et Morio? Ça aurait pas été possible d'avoir des comptes différents?
Ben c'est ce qu'on a.
Non, madame. J'aurais voulu savoir, port, moi. Voilà. Non, pas le port. La gestion des rentrées de taxes foncières, impôts locaux et taxes de tout genre, que génère Carnot par rapport à Mongo, par rapport à la somme globale que vous nous avez, soumise. J'aurais aimé avoir ce compte particulier.
Ça, c'est impossible.
Oui. Non, c'est pas impossible, madame. Non, c'est pas impossible. J'ai une lettre de la CADA parce que j'ai écrit au receveur principal des impôts à Montpellier, je l'ai foutu à la CADA et la CADA m'a donné raison. Donc ce compte existe bel et bien et je peux en avoir, si je le demande, je peux en avoir une copie. Et d'ailleurs, ça avait été présenté un compte signé à l'équipe par M. Bourin en 2015 à la commission des finances, sur lesquels il avait statué qu'au bout du compte, ça avait abouti sur le fait qu'il manquait 400 000 euros pour que Carnot puisse fonctionner en autonomie.
Vous nous donnerez le courrier, M. Frappoli, parce que ce que vous dites n'est pas l'exactitude de ce que l'on peut faire.
C'est comme ça.
Mais non, mais sortez-le si vous l'avez documenté.
Non, je ne l'ai pas là, je ne vous fais pas venir, ne vous inquiétez pas. La CADA m'a donné raison.
Oui. Moi, je vous demande de nous produire le document.
Oui, mais je vais vous le produire. De toute façon, on vous avait envoyé un courrier. Moi, je vous avais envoyé un courrier pour avoir ce dossier. Vous m'avez renvoyé un dossier avec toutes les taxes de séjour, les taxes de terrasse, les taxes et tout ça.
Ce qui est public. Oui.
Mais jamais les rentrées d'impôts, taxes d'habitation et taxes foncières de Carnot par rapport à Mogio, en sachant que moi, étant propriétaire à Mouillot et Carnot, je paye deux taxes et deux trucs différentes. Hein. C'est sur ma feuille d'impôt.
Parce que vous avez une résidence secondaire, c'est tout, comme tous les gens qui ont une résidence.
Mais j'ai une résidence secondaire, mais ce qui veut dire que je paye ma taxe foncière à Mouillot et ma taxe foncière à Carnot.
Mais pas une commune.
Mais je sais que ce n'est pas une commune, mais elle génère quand même un certain nombre de rentrées d'argent. En tant que monsieur, je crois que M. Balzano ne pourra pas me contredire là-dessus.
Moi, ce que je peux vous raconter, c'est quel intérêt vous avez à avoir la répartition entre cas. Quel intérêt on a pour gérer une commune d'avoir une répartition?
C'est à titre indicatif, j'ai besoin de savoir, c'est tout.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur les bases d'imposition, la valeur locative à Carnot est plus importante.
Comme... Oui, mais d'accord. Mais ça, on le sait, c'est une station balnéaire.
Voilà.
Mais un peu, bien sûr. Mais moi, c'est la somme globale que j'aurais dû avoir. Maintenant, si vous ne voulez pas la donner, ce n'est pas un problème. Hein. Moi,
non.
Ne serait-ce de l'avoir rien.
On donnera ce qui existe, ce qui n'existe pas, on ne donnera pas.
Non.
Voilà. Donc, vous avez expliqué votre
ça ne peut pas exister. Hein.
Très bien. Monsieur Paré.
Moi, avant qu'on lui donne quoi que ce soit, il faudrait qu'on soit tous d'accord pour savoir où commence et où s'arrête Carnot. Si on écoute le maire de Pérol,
Carnot s'arrête à l'aéroport.
Voilà. Très bien. Allez. Si vous en avez d'autres, gardez la réserve.
Avec l'augmentation, on impose un compte administratif et un compte de gestion par commune et non pas par quartier de commune.
Oui, mais il ne faut pas avoir des quartiers.
C'est considéré comme. Et Bogio est un quartier de la commune de Paris. Allez, on passe, vous avez voté, on passe maintenant au compte de gestion de la région du port.
Alors, je vais commencer par le compte administratif du coup du port, comme ça.
Hein oui. Mais comme ça, sera logique jusqu'au bout, même si on nous dit derrière que non, mais vous avez
dit ça. Alors, le port de.
Il faut que je sorte. Non, pas pendant les débats. Non, parce que tu viens, non.
Le port de Carnon est un service public à caractère industriel et commercial, un SPIC. La commune de Mobio-Carnon, gestionnaire du port, en assure l'exploitation dans le cadre d'une régie dotée de la seule autonomie financière. Les recettes et les dépenses d'exploitation et d'investissement de la régie du port font l'objet d'un budget annexe. Donc le compte administratif, comme celui de Mobio, rapproche les prévisions budgétaires des réalisations effectives en dépenses, mandats et en recettes, comme on l'a vu précédemment, sur l'année 2017. Au niveau du compte administratif, nous avons eu un excédent pour le port d'exploitation de 521 055,06 €, sachant que pour le port, nous parlons en hors-taxe. Un excédent d'investissement de 330 876,73 € hors taxe, dont 78 297 € de dépenses engagées non mandatées sur 2017. Alors, au niveau du détail, vous l'avez eu bien sûr comme Mobio, c'est-à-dire que moi je vais aller sur les éléments essentiels. Les résultats du compte administratif pour cet exercice font ressortir un écart de 64 700 € hors taxe avec le compte de gestion de monsieur le receveur principal. Donc, lors de la reprise de l'excédent d'investissement en 2016 au compte 001 de l'exercice 2017, le montant des restes à réaliser sur 2016 était de 64 700 € et avait été déduit dans la comptabilité de l'ordonnateur. Donc, ce point a été abordé avec monsieur le receveur qui préconise la régularisation de cette écriture sur l'exercice 2018. Le compte administratif est arrêté sur la base des résultats de l'ordonnateur en accord avec les services du Trésor public au vu de la constatation de l'origine de cet écart.
Excusez-moi, j'ai pas compris.
Le début, ça,
ça a l'air super intéressant. Je suis passé à côté. C'est bon, hein.
Alors, sur les comptes de 2016, il y avait un reste à réaliser de 64 700 € hors taxe qui n'a pas été, qui avait été sorti des comptes, qui aurait dû être comptabilisé à l'intérieur, qui avait été sorti. Donc quand en 2017, au moment de faire le compte administratif, le trésorier a vu l'écart, il a préconisé de réintégrer cette somme sur 2018, sur les comptes de 2018. Voilà, donc c'est pour vous expliquer cet écart de 64 700 € qu'il y a entre le CA de 2017 et le compte de gestion que vous serez amené à voter ou pas dans un deuxième temps. J'aurais dû le faire comme ça dès le début.
Il sera réalisé.
C'est fait en 2018. C'est une régularisation d'écriture.
Les opérations sont passées.
Tout à fait.
D'accord. Et ça, on aurait peut-être dû en parler au BP.
Non, c'est pas ça.
Eh ben,
2018.
Non. Si je l'avais su, oui. Et là, il est sorti au compte administratif de.
Je peux prendre la parole, monsieur Lemay.
Il ne vous a pas communiqué avant le VP ? Non,
ça va. Oui. Si, je vais t'expliquer ce qui. Enfin, pour compléter les propos de ma collègue, ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on a arrêté les comptes en 2017, si tu veux, on a passé une écriture dans notre comptabilité de hors bilan, de reste à réaliser. C'est une voiture de service. Et les pontons GH, etc., les travaux de maintenance des pontons. Le Trésor public, lui, n'a pas passé ses écritures dans ses comptes. Donc nous, on a diminué, si tu veux, notre excédent, si tu veux, et on s'est retrouvé avec un écart. Donc là, le TPG nous dit régulariser. Donc on régularise l'écart, en fait, mais en 2018, la dépense, on les a faites. Donc ça rentre dans l'ordre, si tu veux, voilà. C'est un décalage, si tu veux, voilà ce qui s'est passé. Voilà.
Bien.
Yeah.
au niveau des recettes de fonctionnement. Donc le montant des recettes réalisées est de 2 374 235 000 € hors taxes, 43, soit une augmentation de 5,37%. Au niveau des recettes de fonctionnement pour le port, la ressource principale est toujours la redevance des contrats d'accostage. Donc même chose, vous avez le détail des recettes. Les recettes de carburant à la station d'avitaillement présentent une marge faible, ça on le savait, ils le revendent quasiment au prix au niveau du coût.
0,05 de bénéfice, presque rien.
C'est ça. Par contre, ça a été suffisamment attractif pour récupérer une clientèle qui vient à nouveau s'approvisionner et qui était partie sur d'autres lieux. Donc une bonne fréquentation en 2017, plus 33 000 € hors taxes, également concomitant à l'activité de location de bateaux implantée depuis 2016, qui a fait aussi que ça fait augmenter la vente de carburant. Une légère diminution des produits issus des manutentions, donc moins 4 089 € hors taxes, découlant notamment de la fermeture de l'aire de carénage lors des travaux de réhabilitation sur le début de 2017. Au niveau des ventes de badges et de prises de quai, bien maintenant, on constate que la quasi-totalité des usagers sont équipés, donc forcément un peu moins de ventes. Et au niveau des contrats annuels, poste à flot, stockage à terre et parc à dériveur, compte tenu d'une optimisation maximale des occupations, l'augmentation de ces ressources est concomitante à l'augmentation annuelle des tarifs votés en 2017. Elle représente plus 18 555 € hors taxes. Au niveau des dépenses de fonctionnement pour le port, les dépenses d'exploitation sur 2017 sont de 2 255 638 € hors taxes, dont 1 823 676 € de dépenses réelles, soit une baisse de 2,19%. Même chose, vous avez le tableau de répartition des dépenses qui vous ont été livrées. L'effort soutenu pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement courantes vise à dégager un excédent de fonctionnement optimum pour constitution de provisions pour les travaux de dragage à prévoir. Pareil, on en a parlé sur les différents conseils, sans toutefois nuire à la qualité d'entretien courant du port. Donc l'excédent de fonctionnement dégagé sur l'exercice à hauteur de 521 055 € est reporté au compte 002, ce qui permet notamment de la concrétisation de la provision de 200 000 € pour les futurs travaux de dragage et la possibilité de majorer cette provision en 2018 pour accroître ce fonds de travaux. Au niveau de l'investissement. Donc les recettes d'investissement pour le port, le total des recettes s'élève à 727 588 € hors taxes contre 407 233 € hors taxes en 2016. Le versement d'une quote-part de 45 625,95 € sur la subvention départementale de 58 118 € à percevoir pour la réalisation du parc à bateaux. Le solde sera perçu en 2018. C'est aussi la concrétisation à hauteur de 250 000 euros de l'emprunt prévu dans le plan de financement du parc à dériveurs, livré au printemps 2017. Et enfin, 431 962 euros de recettes d'ordre d'investissement. Au niveau des dépenses d'investissement, donc le montant pour 2017 est de 681 680,52 €. Et notamment, c'est pour réaliser les opérations donc, qui restent à réaliser, l'accessibilité à la capitainerie et le parc à dériveurs. Le compte administratif du port présente un excédent de fonctionnement, un excédent d'investissement. Il comporte 78 297 € hors taxes de dépenses engagées non réalisées dans la section d'investissement. Il convient enfin de procéder à l'affectation des 64 700 € de régularisation, ce que je vous présentais au départ. Donc le report de ces excédents au budget 2018 permet d'envisager donc, le dragage et la part d'autofinancement de la capitaine.
C'est trop poli.
Oui, je vois que dans les prévisions d'investissement, il n'y a pas la réparation de la porte du SAS qui donne accès à l'étang de l'eau. Le problème, c'est que j'ai eu pas mal de gens au téléphone qui me disent avoir des craintes sur les remontées salines de la mer sur l'étang, et ainsi que des cours d'eau qui arrivent jusqu'à Montbiot, sur lesquels il n'y a pas de barrage anti-sèche. Alors je vous pose la question de savoir, est-ce qu'on peut réparer ou pas ?
Bernard ?
Écoute, Bernard.
Pour les barrages anti-sèches, bon, il y en a déjà des barrages anti-sèches sur le Bérage et sur la Cadoule, et non pas sur le Saint-Lizon. Et il y en a sur la Jarre.
Ni sur la Capoulière.
Comment ?
Ni sur la
Capoulière. Non, sur la Capoulière, non, parce que c'est un petit cours d'eau qui arrive là pour les remonter de salinité, d'accord. Quant aux portes de Carnot, en effet, on travaille depuis 2 ans là-dessus, bientôt ça va faire. Hein. Sans relâche, pour ainsi dire. Et je viens de recevoir aujourd'hui tout le sanité de l'étang de l'or. Ben, il est très bas pour le moment. Bon, on a eu une année pluvieuse.
Oui.
Si vous voulez, je vous la verrai. Si vous n'avez plus de vol. Bon, je viens de le recevoir, c'est maintenant la journée. Et mais après, à partir de là, bon, nous travaillons là-dessus depuis 2-3 ans, même plus que ça. Alors, bon, on y travaille depuis, moi je peux vous garantir, même quand j'étais élu, je travaillais sur la sanité de l'étang de l'or. Je travaille depuis des décennies.
Et je ne vous mets pas en porte-à-faux, c'est un constat que je fais par rapport aux doléances.
J'informe. Tu as raison, j'en profite pour informer. À ce moment-là, les autres collègues ne le demandaient pas par le passé. Donc là, c'est vrai qu'on a fait un plus gros travail là-dessus pour le moment.
Alors, je vais rencontrer le président du département.
Oui.
Qui a voulu se désengager de la gestion qu'il avait à son entière charge par le passé, et il a confié une étude au CIMBO, dont on attend le résultat, pour savoir comment on procède, si on les répare, si on ne les répare pas, si c'est bénéfique ou pas bénéfique. Le CIMBO a en charge une étude dont nous attendons le résultat. C'est vrai.
Voilà. Le propriétaire, c'est le département, preuve du contraire. Et les propriétaires des portes de Carnot.
Mais des contacts ont été pris avec l'agglomération du Pays de l'Or pour transférer la propriété ou...
C'est pas les voies navigables,
là, Non.
Tous les élus, avec tout le vigilant, là-dessus. Sur les portes de Carnot, je veux dire, il n'y a pas que Montbiot, c'est tout autour de l'étang de l'Or, tous les élus. Hein. Voilà, bon.
C'est pas un sujet qu'on a négligé, non. Bon. Bernard pour la présidence.
Alors, on va passer au vote sur le compte de gestion, s'il vous plaît. Le compte administratif, pardon. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Monsieur le maire.
Téléphone.
On aura au moins ce point commun, monsieur Pareil. On passe au compte de gestion, s'il vous plaît.
Alors, le compte de gestion du POP, les résultats du compte de gestion et du compte administratif 2017 présentent un écart en investissement de 64 700 euros. Celui-ci résulte de la déduction dans la comptabilité de l'ordonnateur des restes à réaliser de 2016 lors de la reprise du résultat d'investissement au compte 001 de l'exercice 2017. Donc, elle souligne que cette régularisation d'écriture a été abordée avec monsieur le receveur et que cet excédent d'investissement 2017 complémentaire sera porté au budget d'exercice 2018. Je vous invite donc à voter le compte de gestion.
Alors, votre vote contre... Non, là, je reste, non ?
Oui.
Contre ? Abstention ? Je vous remercie.
Au niveau de l'affectation du résultat maintenant de l'exercice 2017 pour la régie du port de Carnon, donc le compte administratif 2017 que nous venons de voter présente un excédent d'exploitation de 521 055,06 € hors taxe, un excédent d'investissement de 330 876,73 € hors taxe, incluant des dépenses engagées non mandatées en reste à réaliser 2017 pour 78 297,61 € hors taxe, ressortant dès lors à 252 579,12 € hors taxe. Résultat auquel il convient de rajouter l'excédent d'investissement 2017 de 64 700 € hors taxe, dont l'écart est constaté entre le compte de gestion et le compte administratif. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'adopter l'affectation des résultats du compte administratif.
Bien. Pas ce vote. Contre. Abstention. Merci. Point suivant. Caroline, toujours.
Il s'agit de la décision modificative numéro 1 au budget principal de la commune. Alors là, c'est simplement une écriture comptable, c'est-à-dire que la SPM nous demande une avance de 5 000 € pour les annonces liées au marché à lancer dans le cadre du schéma directeur. Donc on prend simplement les 5 000 € du schéma directeur qu'on affecte sur un compte d'avance. C'est tout.
On se vote contre. Abstention. Merci. Caroline, toujours.
Le point numéro 8, il s'agit d'une cession d'un fourgon plateau Renault Master à l'entreprise Renault. Alors, dans le cadre de l'acquisition d'un fourgon plateau de CD par une reprise, le fourgon plateau Master acheté en 2005 à l'entreprise Renault, le montant de la reprise est de 6 000 €. Et la valeur de la nouvelle acquisition, 23 398,54 €.
Un commentaire, on passe au vote. Contre. Abstention. Vendu pour le Renault Master. Merci.
Ensuite, il s'agit d'une demande de subvention pour la mission de maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à la réhabilitation du jardin du mosquée à Carnon.
Voilà. Oui.
C'est promis. Alors.
Je vais être attentive à votre vote. Donc, le montant prévisionnel de l'étude de maîtrise d'œuvre est estimé à 20 834 € hors taxe, 25 000 € TTC. Et les travaux à 175 000 € TTC. Donc, monsieur le maire propose de solliciter une subvention la plus élevée possible pour les études et travaux auprès de l'État, la DREAL, pour la partie études, du Conseil régional Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, au titre du plan littoral 21, et du Conseil départemental de l'Hérault.
Des questions ?
Le préfet, depuis qu'il y a que le contrôle de l'égalité, il a dû pouvoir passer au moins 10 fois 80 000 €. Et là, on va lui donner des sous, il ne l'aura jamais.
Écoutez, il ne tente rien à rien. Bon. On va aller à Paris ?
Je vous accompagne, on va sortir à Paris, monsieur le maire.
Attention, au premier, c'est qu'on fait comme ça. Allez, on passe au vote. Contre ? Abstention ? On est d'accord, c'est bien quand même, merci.
Une demande de subvention concernant les opérations de mise en accessibilité des bâtiments publics de la commune pour la tranche 1, donc jusqu'à l'année 2022, pour un montant total estimé à 1 767 076 € TTC. Le montant prévisionnel de cette tranche de travaux maîtrise d'œuvre intégrée est de 1 093 334 € hors taxe, soit 1 312 000 TTC. Monsieur le maire propose, dans la continuité des aides octroyées par l'État au titre de la DETR 2014, de solliciter une subvention la plus élevée possible au titre de ces travaux de mise en accessibilité auprès du Conseil départemental de l'Hérault, de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et de l'État.
Bien. Questions ? Il n'y en a pas. On passe au vote. Contre ? Abstention ? Merci. Point numéro 11.
La fixation des montants 2019 de la taxe locale pour la publicité extérieure, ce qu'on appelle plus communément la TLPE, Donc vous avez la TLPE concerne les dispositifs suivants, les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes. Donc cette taxe est calculée sur la base d'une déclaration annuelle du redevable effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existants au 1er janvier et le recouvrement étant effectué à partir du 1er septembre de l'année d'imposition. Donc c'est le vote des nouvelles tarifications. Tout simplement. Donc pour vous donner plus de précision, c'est basé sur l'indice 2017 de l'indice de l'INSEE, prix à la consommation, et ça représente une augmentation de 1,2% et c'est applicable sur les tarifs 2019.
Cette taxe rapporte à peu près 550 000 euros par an, à peu près.
C'est ça.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Encore un.
Point suivant, la fixation des tarifs et modalités de perception de la taxe de séjour suite à la réforme à compter du 1er janvier 2019. Donc, la loi de finances 2017 porte les modifications qui devront intervenir en matière de taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019, comprenant la modification du barème légal, donc vous avez un tableau 6 juin, l'introduction de l'application d'un pourcentage sur le prix hors taxe de la nuit par personne pour les hébergements sans classement ou en cours de classement, c'est-à-dire les meublés de tourisme, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme et les villages de vacances, la fin des arrêtés de répartition et l'obligation de, c'est-à-dire une répartition différente, et l'obligation de collecte de la taxe de séjour pour les opérateurs numériques intermédiaires de paiement qui jusque-là passaient outre cette taxe. Donc même chose, ce sont les nouveaux tarifs, sachant que cette taxe représente à peu près 180 000 euros pour la ville de Mobio-Carmo.
Effectivement, il y a un gisement qui n'est pas négligeable dans une somme que doivent acquitter normalement toutes les personnes qui sont des courtiers en la matière. Voilà. Si vous êtes d'accord, on vote cette délibération, à moins qu'il y en ait qui soit contre ou qui s'abstienne. Merci. Encore
oui. La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Donc nous proposons une exonération en faveur des terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique. Donc, Monsieur le maire vous propose d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant une durée de 5 ans. Les propriétés non bâties pour les exploitations qui utilisent le mode de production biologique.
C'est pour tout type d'exploitation, il n'y a pas une sélection. C'est pour tout type d'exploitation.
Bah, qui utilise l'agriculture.
Oui. D'accord.
Et les pêcheurs, par exemple,
ils sont bio. On commence par les agriculteurs. C'est sur la taxe foncière, si les propriétés non bâties, on ne peut pas exonérer les gens de quelque chose qu'ils ne payaient pas. Allez, on le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Laurence, Madame Gély va nous parler de l'approbation du code administratif 2017 et du budget primitif 2018. Merci Caroline.
Alors les comptes de l'Office de tourisme, compte administratif 2017 et budget primitif 2018 ont été votés par son comité directeur. Concernant le compte administratif, l'Office de tourisme a réalisé un excédent important de 87 088 euros qui s'explique par des dépenses contenues à hauteur de 577 757 euros. Des recettes bien supérieures à celles qui étaient attendues et qui s'élèvent à 664 845. Alors pourquoi des recettes aussi importantes? Ben, d'une part, grâce au droit de mutation qui a été bien supérieur, mais surtout, on vient d'en parler, de la taxe de séjour. Il y a un travail qui a été fait pour relancer les propriétaires notamment, et on a eu une taxe de séjour bien plus importante que celle qui était prévue. En additionnant excédent 2017 et excédent reporté de 2016, nous avons un excédent global de 179 274 euros. Cette somme importante reprise dans le budget primitif 2018 que nous allons proposer sera vue plus loin. Concernant la section d'investissement, on a des recettes de 9 061 euros et des dépenses de 23 531 euros qui sont dues notamment à l'achat d'un nouveau véhicule cette année.
ce qui entraîne un déficit sur 2017. Ce déficit est compensé par un excédent reporté de 2016 de 24 555 euros. Ainsi, nous avons un excédent de clôture qui se porte à plus 10 085 euros. En ce qui concerne le budget prémissif 2018, nous proposons d'intégrer les bons résultats réalisés sur 2017 en portant ce budget prévisionnel à 748 174,61 euros pour la question de fonctionnement et à 22 957,67 euros pour la section d'investissement. En ce qui concerne la section d'investissement, ça sera utilisé notamment pour revoir le parc informatique de l'Office du tourisme. Et en ce qui concerne la section d'exploitation, ce delta très positif sera utilisé notamment pour de nouveaux projets, alors notamment pour celui qui s'appelle Un dimanche à Mobio, qui est une boîte mystère qui invite le dimanche, jour de marché, à venir visiter Mobio, la mode, le château, son histoire. Il y a également des nouveaux partenariats qui ont été mis en place avec le sport, la culture, la communication, le scolaire, dans lequel on a injecté des sommes. Exemple, nous avons acheté, le service scolaire a de son côté acheté des sacs. Quand je parle de sacs, je fais référence au Parlement des enfants. Sophie, peut-être que tu as l'intention d'en parler après.
Je t'en prie.
Donc le Parlement des enfants qui a eu lieu il y a quelque temps, dans lequel des enfants avaient fait la proposition de sacs qui permettent de jeter les déchets qu'ils ont quand ils vont, par exemple, à la plage. Donc le service scolaire en a acheté pour les enfants concernés, qui sont maintenant au collège. Et de l'autre côté, l'Office de tourisme, on en a acheté pour les vendre et véhiculer ainsi un message sur la propreté. De nouvelles formes de communication également ont un coût plus important, parce que nous avons intégré dans les nouveaux documents de cette année les partenariats avec les différents services que j'ai cités au préalable. Et par exemple, nous avons un guide des animations cette année qui est plus volumineux parce qu'il intègre à la fois les animations sur Carnon, mais aussi sur Mobio, ce qui ne se faisait pas jusque-là, avec également les commerces liés au tourisme, tant sur Carnon que sur Mobio. Et enfin, nous avons un poste important qui est lié à une nouvelle étape dans la démarche sur le handicap, puisque nous nous lançons dans la démarche Destination pour tous, qui est un label proposé par l'État, et qui est pour l'instant très peu suivi sur le département, puisqu'à ce jour, il n'y a que Ballaruc-les-Bains qui est dans le projet. Voilà. Alors, je ne sais plus, il faut voter, il faut...
Merci, Laurence. D'abord, s'il y a des questions, avant de voter. Reste là, Laurence. Il faut qu'elle sorte.
Non.
Bon, s'il n'y a pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3, merci. On passe au point numéro 15, relative à une autorisation en ce qui me concerne pour signer l'accord cadre de fourniture d'acheminement de gaz naturel alimentant les points de livraison de Mobio. En fait, c'est l'accord cadre que je vous appelle à voter sur une durée de 4 ans, 2 fois 2 ans, avec une préliste où nous répertorions les 4 fournisseurs potentiels qui se verront attribuer par ce qu'on appelle le marché subséquent la fourniture en temps réel de ce dont nous aurons besoin. Voilà.
Il faut corriger.
Pardon ?
Il faut corriger. Il faut... voir sur le quatrième. On a mis 2 fois gaz de Bordeaux.
Oui, vous avez raison. Qui c'est qu'on a normalement
Eni.
Eni, excusez-moi. Merci de votre vigilance, madame. On vérifiera de toute façon dans la compte rendu, on vous dira si c'est au même ou 4 ans. Voilà. Alors, on passe. Oui, il y en a un qui est à 30 990, l'autre à 30 478. On vous le précisera dans le compte rendu de séance, à moins que d'ici la fin, en régie, on puisse vous le dire. Allez, on passe au vote pour m'autoriser à passer aux hommes. On n'a pas trop le choix. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Partenariat avec le PLI de l'Est des Roquettes pour l'insertion des clauses sociales dans le marché public. Dispositif classique également, donc. Les donneurs d'ordre du territoire dont nous faisons partie passent depuis des années des marchés avec l'insertion des clauses sociales puisque donc, qui sont conclus sur une durée de 3 ans de la convention que je vous appelle et que je vous demande de m'autoriser à signer pour justement insérer les personnes qui sont exclues de l'emploi momentanément de pouvoir bénéficier de ces clauses de réinsertion et retrouver du travail.
Vous avez des associations particulières, monsieur Jean?
Oui, on a des fois Passe-Muraille, on a des fois Passerelle, on a... Oui. En fait, là, c'est le principe, quand on, mettons, on va passer un marché pour l'avenue Jean Moulin. Et l'avenue Jean Moulin, dans le marché, on met les clauses sociales à partir d'un certain seuil de marché. Justement, on va obliger l'entreprise à embaucher une personne, ou deux ou trois, enfin bref, pour justement... faire un office d'organisme formateur. Voilà. Voilà. Donc vous connaissez le principe. On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Il n'y en a pas? Merci. Ensuite, modification des statuts intégrant au titre des compétences supplémentaires l'installation, la maintenance et l'entretien des avis voyageurs affectés au service public, transport urbain. Alors, pour faire simple, c'est une délibération entre l'agglomération des Pays de l'Or et la commune. C'est-à-dire que du fait que la communauté d'agglomération a la compétence transport, de manière assez logique, les abribus, les 65 abribus, vont passer en compétence intercommunale. Pour autant, ces abribus, qu'ils soient payés par la commune directement, entretenus par la commune, payés ou entretenus par l'intercommunalité, rendent le même service. La seule chose qui varie, et le détail a son importance, c'est le fait que ces espaces sont des espaces publicitaires assez enviés et que nous sommes en train de négocier avec l'agglomération la possibilité de mener pour le compte d'objectifs communs des campagnes d'affichage en alternance avec eux ou avec Girovi ou Deco, enfin, je ne sais pas le prestataire en question. Voilà. Donc le fait, on se dessaisit d'une certaine manière, d'une forme d'autonomie en termes de publicité qu'on avait, mais l'objectif de l'abri étant, comme son nom l'indique, de permettre aux personnes qui prennent les transports en commun d'être à l'abri.
Entretien aussi, monsieur le maire?
Non, oui, l'entretien pour l'abri. Ah ben oui, on ne va pas quand même, nous, avoir l'entretien à notre charge, et leur laisser le plaisir de... On passe au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est d'accord? C'est bien. Merci. Le point numéro 18 est relatif au port de Carnon. Il est relatif, disons, à une disposition destinée à responsabiliser l'usage des compteurs électriques pour les immobilières du port. Jusqu'à présent, dans le forfait, quelle que soit la longueur du bateau, était incluse une consommation de 700 kWh. Nous avons été amenés à constater que si certaines petites embarcations pouvaient payer cette somme, certaines grosses embarcations, de manière vraiment très importante, surpasser ses consommations moyennes. Ce qui a fait l'objet de rouspétances de la part des personnes qui consommaient peu. C'est ainsi que nous avons parfois des bateaux à quai, sans personne sur place, des engins frigorifiques ou de ventilation ou de maintenance qui consomment beaucoup. Donc il a été convenu qu'on payerait en fonction de sa consommation, ce qui nous semblait être une pratique que nous approuvons dans le cadre de nos maisons que nous habitons, qu'elles soient à nous ou qu'elles soient en location. Je dépense beaucoup d'électricité, je paye beaucoup. Je dépense peu, je paye moins. On pourrait s'en inspirer pour les centres balnéaires des sondes de tri. On y va d'ailleurs à grandes enjambées. Au lieu de payer tous la même chose, indépendamment de ce que nous rejetons, ou en tout cas, que nous voulons valoriser, pour employer un terme différent, mais on peut le faire en fonction des quantités. Donc c'est ainsi que cette année, nous avons déterminé une consommation moyenne de 1867 kWh, qui est une année de transition. Et tous ceux qui dépassent sont avisés et payroll surplus. Voilà. Donc, je suis obligé de vous demander l'approbation au conseil municipal d'une telle disposition pour un encaissement de recettes qui, in fine, sera le même, mais qui sera mieux réparti en fonction de la consommation de chacun. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous abstenez ? Je vous remercie.
Mais c'est pas la fraction des dépenses.
C'est un bateau, non ?
C'est un gros bateau, toi.
C'est un gros bateau.
C'est un yacht.
Ça veut dire. Enfin, mais c'est pas la tradition de l'effort, voilà.
C'est présenté, non ? La tradition de l'effort, c'est payer les coûts.
Les, je ne sais pas, l'égalité sociale, ouais, les, à mon avis, celui qui voilà,
vous avez dit plus chien gauchiste. La partie
gauchiste, non, gauchiste, c'est péjoratif. Social. Et d'équité. Allez, en route. Mauvaise trompe. Suppléance de la directrice des ports de Carnon. En cas d'absence, ou d'empêchement prolongé. Alors, la responsable, donc, quand la responsable, Madame Beninelli, est absente, Monsieur Poli, jusqu'à présent, était désigné pour sa suppléance. Monsieur Poli vient d'obtenir une mutation vers une autre collectivité, donc il convient de procéder à une autre suppléance. Je vous propose Madame Virginie Pastor. Voilà, et puis on verra plus tard comment ça se passera. Si rien. Voilà. Donc on remplace un responsable par un autre. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bernard, M. Cassard va nous parler d'une structure modulaire à la plaine des sports de Moggio.
Oui. Alors effectivement, la commune de Moggio projette l'implantation provisoire sur la plaine des sports d'une structure modulaire. Cette structure modulaire fait environ 10 mètres carrés et permettra un stockage de matériel sportif. Voilà. Donc nous vous demandons de bien vouloir adopter le projet d'implantation provisoire et d'autoriser M. le maire à déposer la déclaration préalable qui a fait à cette implantation.
Merci Bernard.
On va penser à bien la sécuriser, monsieur.
Écoutez, on veille sur les personnes du mieux que nous pouvons.
Et pourquoi on parle de la construction de la nouvelle école de voile dans l'exposé?
Attendez.
Cette structure, si je ne me trompe pas, elle est là-bas à l'école de voile, elle est rapatriée à Moggio.
C'est un.
C'est pas la
plaine
des
sports.
Si, c'est
la plaine des sports. Pour l'école de voile, il y a des travaux. Oui. Donc cette structure modulaire gêne les travaux. Donc on la récupère provisoirement sur le terrain de la plaine des sports. Et c'est une implantation provisoire.
C'est un déménagement.
Voilà.
Les travaux du octobre vont pas s'arrêter quand on arrête là ?
Si, si.
Si, monsieur. Bien sûr. Hein.
Oui.
Travaux bruyants.
Monsieur Rodeil.
Vous avez inauguré les aménagements sportifs à Carnon.
J'ai invité d'ailleurs.
Ce week-end. Et je n'ai pas vu passer d'invitation. Donc je souhaite dire à monsieur l'adjoint que c'est un super boulot, qu'on est en soutien, mais on n'a pas eu l'invitation. Non, mais bon, je ne sais pas.
Moi non plus. Il n'a pas reçu.
Il manquait quelques beaux gosses. Il manquait non, quelques beaux gosses, pas gros.
Non, il n'a pas reçu.
Non, c'est le président de club aussi. Je pense Dominique qui aurait pu les tester. Oui, moi.
Bon. Alors. On vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bonjour Bernard.
Alors, la société Enedis a proposé à la commune la passation d'un bail valant convention pour d'occupation du domaine public, pardon, pour organiser l'implantation d'un nouveau transformateur le long de l'avenue Gaston-Bessette au lieu dit Fongarine. Cette convention organise l'occupation à titre précaire et révocable d'une superficie de 25 mètres carrés sur la parcelle cadastrée BP59 située avenue Gaston-Bessette. Voilà. Donc on vous demande d'approuver la passation du bail et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à cette procédure.
Parfait.
Il y a un embarras de voie publique et quelque chose par rapport à cette construction. Ce 27 mètres carrés, ça fait quand même.
Là, je ne sais pas, c'est les techniciens, je ne sais pas s'il y a. Non, il n'y en a pas.
Il
n'y
en a pas ?
Il n'y a pas d'embarras de.
Non.
Donc, t'as.
Voilà.
Allez, on passe au vote. Contre, abstention. Merci. Point 22, c'est pas grave.
Alors, c'est la suite du point 21, puisqu'on on autorise bien sûr l'implantation d'un transformateur. Il faut aussi autoriser l'intervention de constitution de servitude liée à l'implantation des câbles, etc. Sachant que, pour votre information, l'implantation de ce transformateur est accompagnée de l'enfouissement de la ligne.
Bien. On vote. Contre. Attention. Merci. Dénomination de voix. Alors, là, on a plusieurs dénominations, Bernard.
Alors, il y a une première dénomination qui est proposée, qui est de rendre hommage à M. Louis Vergne, qui a été élu et premier adjoint au maire pendant une majeure partie de ses mandats, et qui est décédé en 2015. Il est proposé de lui rendre hommage en dénommant le rond-point Louis Vergne, qui est le rond-point placé à l'intersection du boulevard de la démocratie et du boulevard Edgar Quinet. Celui, pour simplifier, celui qui est en bas du parking de l'ancien jeu de pétanque.
On précisait que c'était un souhait de la famille.
Ça a été demandé par la famille.
Il n'avait pas son officine à côté ?
Oui, pas loin. Oui, pas loin.
Il avait son officine d'assurance à côté.
Pas loin. Absolument, il était à côté. C'est pour ça qu'il demande le rond-point.
Bon. On peut voter. Qui est contre ? Certier. Je vous remercie.
Donc il y a un deuxième hommage qui est rendu à Loïc Vergne, qui est décédé à l'intersection du chemin de Père-Blanc le 24 septembre 1998. Il est proposé de dénommer le chemin Loïc Vergne, situé sur la parcelle cadastrée CY263 et qui dessert cette parcelle.
Voilà, c'est une demande qui a été formulée il y a longtemps par la famille. D'autres demandes sont en cours, notamment l'ancien maire Michel Bacala. On essaiera de voir avec Mme Bacala et Laurent Pradey à quel moment on peut se rencontrer pour le proposer au mois de juillet. Hein, voilà. Et je veux dire, ça n'est pas une initiative systématique de notre part que de baptiser les lieux qui portent les noms de personnages publics. Parfois, bon, quand on peut le faire pour la dénomination de voie, et parfois cela nous a été utile par rapport au fait que la Poste a fait un travail de recensement, si ce n'est que le rond-point Louis Vergne, il n'y avait pas de nécessité à l'appeler Louis Vergne nommément par rapport au travail de la Poste, mais ça nous a amené à examiner des possibilités de baptiser certaines voies. Voilà, donc on vous propose le chemin Louis Vergne, qui ne porte pas de nom, qui est le chemin de Pérodin. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà, je vous remercie pour la famille, pour sa mémoire. Monsieur Cravert, merci Bernard. Jacques, tu vas nous parler de l'avenue Jean Moulin.
Oui, de l'avenue Jean Moulin, convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et entretien des dépendances routières avec le conseil départemental. Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'amélioration de la circulation, la commune a engagé des travaux de requalification de l'avenue Jean Moulin entre le carrefour de l'avenue Jean-Baptiste et Clément et le carrefour de la rue André-Mauroy. Ces travaux consistent en la réalisation de trottoirs, parkings, carrefours, pistes cyclables, un fouillissement de réseau et modernisation de l'éclairage public. Corrélativement, le conseil départemental, propriétaire du RD 24, souhaite engager la réhabilitation des chaussées de cette voie. Monsieur le maire propose, dans la conclusion avec le conseil départemental, une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la durée de l'opération au profit de la commune. Une convention fixant les obligations mises à la charge de la commune en matière d'entretien, de remplacement et de responsabilité dépendance de la chaussée. L'enveloppe financière prévisionnelle s'élève à 1 500 000 TTC, intégrant la part consacrée à la réhabilitation des chaussées estimée à 117 000 euros. Et d'autoriser M. le maire à signer les conventions.
Voilà, donc vous avez tous compris que en fait c'est le département qui cède la compétence à la commune.
Une petite chose, monsieur le maire, ça va jusqu'à la rue Jean Cocteau. La rue André Mauroy, c'est la première rue qui a après le plateau Latino, après les anciens ateliers municipaux.
Oui.
Et la rue qui est derrière, c'est la rue Jean Cocteau. Quand nous avons des travaux dans la rue Jean Cocteau aussi.
Ça, c'est la première et la deuxième tranche. Et après, la rue Jean Cocteau, ça sera pris en charge, disons, par l'SPLA.
Ah bon, oui.
Dans le cadre de l'aménagement de la
fonderie. Dans le cadre de l'aménagement de la fonderie.
Donc, une information sera diffusée, donc j'en profite pour la diffuser aujourd'hui, c'est-à-dire que le chantier d'enfouissement des réseaux humides, eau potable et assainissement ont été réalisés par l'agglomération du Pays de l'Or, qui en a la compétence. Que pendant quelques mois, le temps que les procédures administratives soient montées et aboutissent, le chantier ne va pas avancer et il va reprendre septembre, octobre.
Octobre.
Voilà.
Oui, le chantier n'avance pas, mais la chaussée se dégrade toujours.
Oui, la chaussée se dégrade. Pour le moment, la circulation est interdite. Oui.
Sauf pour les.
Ouais.
Il n'y a pas que
les
lois.
Hein.
Non, mais tous les gens qui viennent maintenant arrivent à.
Si vous le permettez, à partir de là, le flux a été réduit. Oui. S'il faut qu'on rende la circulation, disons, rouvre l'avenue Jean Moulin, nous sommes obligés de refaire un revêtement, un enrobé, qui, celui-ci, après les travaux, ça serait complètement absurde, je vous le dis sincèrement, de faire un enrobé pour deux mois, de tout recasser
pour tout.
Non, mais les trous, c'est le revêtement qui fait un petit coup, j'ai quelques trous, je veux dire, mais c'est pas la main.
Ils ont rebouché avec tout là.
Non, non,
c'est une annexe, c'est une
parallèle. La franchette et la réfection ont été faites avec une bicouche.
Oui, mais à un certain endroit, pardon. C'est tout, voilà.
Sur la première, moi, actuellement, la partie qui a été faite en bicouche, c'est la partie qui est comprise entre l'avenue Jean-Baptiste Clément et la rue Archimède.
Oui.
Et après, le reste, c'est la continuité des travaux, c'est pas un gros fil.
Ah oui, mais.
Bon, enfin. Bien. Voilà, donc c'est une information que j'ai fait voter. Enfin, je fais voter la délégation de maîtrise d'ouvrage à la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Toujours Jacques.
Alors, pour réaliser ces travaux, bon, on a besoin d'un élargissement de l'avenue Jean Moulin. Et bon, l'acquisition de la titre onéreux des parcelles CC547, CC544, CC549, CC546 et CC589. Dans le cadre du projet de requalification de l'avenue Jean Moulin précédemment exposé, il convient de mettre en œuvre, au moyen de procédures amiables, l'élargissement prévu au plan local d'urbanisme, un placement réservé C14 pour permettre la réalisation de trottoirs et pistes cyclables répondant aux normes de déplacement des personnes à mobilité réduite. Monsieur le maire propose donc d'acquérir 26 mètres carrés issus de la parcelle CC547 appartenant au consort Dias en contrepartie de la restitution à l'identique de la clôture existante, du déplacement des coffrets de réseau et la prise en charge du coût de géomètre et d'établissement de l'acte d'acquisition. D'acquérir 20 mètres carrés issus de la parcelle 544 appartenant à monsieur Madame Cavina au prix global de 800 euros et la restitution d'une clôture enduite de 0,40 m de hauteur ainsi que de 2 mètres carrés issus de la parcelle CC546 lui appartenant également au prix global de 80 euros. D'acquérir 3 mètres carrés à l'issue de la parcelle CC549 appartenant à M. Christophe Dias au prix global de 120 euros. D'acquérir 48 mètres carrés issus de la parcelle 580 appartenant à M. Cassulati au prix global de 1920 euros sous contrepartie de participation financière à hauteur de 50% du coût de restitution à l'identique de la clôture et éventuellement sous forme de travaux. C'est autorisé, M. le maire.
Il n'y a pas de nous lire pour chacun.
Ah.
Oui, c'est.
Juste une petite remarque là, par rapport à ces parcelles que vous allez prendre. Il y a en ce moment une construction à Jean Moulin qui est à hauteur de 140, je crois, où la construction se fait directement en bordure de route. Les murs de la construction sont carrément les murs mitoyens, alors peut-être que ça fait partie de sa famille, qu'il a cette possibilité de construire comme ça, tant mieux pour lui. Mais par contre, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a un permis de construire affiché devant, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Alors, je pose la question, comment ça se fait ?
Ah ben ça, il faut demander la question, poser la question appropriée.
Ben oui, non mais attendez, à un moment donné, il y a bien une...
Non monsieur, alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Si le propriétaire n'affiche pas le permis de construire, là en l'occurrence il ne l'a pas affiché puisqu'il n'y a rien dessus.
Mais c'est bien avancé.
Le délai de recours court toujours, c'est-à-dire que le délai de recours des tiers part toujours de la date d'affichage du permis. Tant que le permis n'est pas affiché, le délai de recours court. Donc ça veut dire que la commune n'est pas chargée de vérifier l'affichage. L'affichage doit être prouvé par le propriétaire. Bon, maintenant que vous nous le dites, je vais rentrer en rapport avec lui et lui dire qu'il serait peut-être bien d'afficher le permis, mais ça n'est pas à nous de vérifier que l'affichage est bien fait.
Alors, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que les murs de cette bâtisse sont carrément les murs mitoyens de la propriété d'à côté.
Il faut que je regarde le permis, ça, je ne peux pas vous répondre comme ça, je n'ai pas tous les permis en tête.
Il y a une possibilité de construire comme ça, à condition que cette parcelle de Mogio soit intégrée dans le centre du... Avenue Jean-Moulin.
Bon, vous l'en laissez aller, on va la regarder.
Avenue Jean-Moulin. Alors, j'ai rien contre le gars qui est construit.
On va vérifier.
Je regarderai le permis, je vous donnerai des explications. Mais vous comprenez bien que je ne connais pas tous les permis de Mogio.
Par rapport au problème qu'il y a avec les permis de construire, je veux parler de Carman Ouest, mais dans ce genre de milieu, il serait quand même... intéressant que vous y fassiez passer, je crois qu'il y a une garde municipale qui est intervenue en matière d'urbanisme et qu'elle puisse venir constater et mettre en demeure le propriétaire de ce...
Encore une fois, ça n'est pas à nous de vérifier que le permis est affiché. Je vous le dis.
D'accord.
Bon, vous nous le signalez. Quand on nous le signale, on y va.
Oui.
Et on va voir. Effectivement, on dit au propriétaire de l'afficher, mais ça n'est pas de la compétence de la commune de vérifier que le permis est affiché. Okay, le propriétaire prend ses responsabilités, ça veut dire que pour l'instant, il n'a pas de permis, il n'est pas affiché, donc il a un permis, mais le délai de retour... C'est ma langue a fourché. Ah, mais ça vous arrive aussi, non ?
Oui.
Rassurez-moi.
Ma
langue a fourché, je veux dire. Donc, pour l'instant, le délai de recours n'est pas parti, si vous voulez.
Donc, s'il y a un litige avec un groupe de voisinage...
Le voisinage peut s'appuyer justement sur le fait qu'il n'y a pas de permis affiché, donc il peut faire son recours quand il le veut.
Mais oui.
Voilà.
Allez, vendu.
Bon, ben voilà.
On s'en occupe.
Pour information.
On passe... Non, on a voté, je crois. On n'a pas voté ? Ah ben, on a voté. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, donc on va faire les alignements. Madame Campagne, Sophie va nous parler du partenariat Lire à la mer.
Le dispositif Lire à la mer proposé par le Conseil départemental de l'Euro depuis plusieurs années consiste à aménager pour les usagers des plages un espace de lecture ouvert à tous durant la saison estivale, soit du 1er juillet au 26 août, et ainsi permettre une rencontre attractive avec le livre. Cette action est organisée sur la plage de Carman Ouest en partenariat avec la médiathèque de l'Ancre de Carman qui proposera des animations régulières. Le partenariat avec la commune consiste également dans la mise à disposition gracieuse du domaine maritime via la création d'une zone d'activité municipale et l'amener initiale des réseaux et voies d'accès. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la commune et le conseil départemental de l'Hérault pour l'édition 2018 et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Bien, c'est une affaire qui déroule, j'allais dire. Beau partenariat avec la médiathèque de l'Ancre. Un succès qui ne se dément pas et nous sommes ravis d'être choisis par le département comme ville où, à part une année, je crois, on a eu régulièrement l'installation de la... pas de la paillote, mais du dispositif. Voilà. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc l'inauguration est prévue le samedi 7 juillet à 11h. Madame Moulin Crafort, parti, va nous parler de l'attribution d'occupation du domaine public.
Oui, donc l'attribution du domaine public pour l'organisation d'une fête foraine à Carnon. Alors, la commune a lancé le 4 mai 2018 une publicité afin de mettre en concurrence le domaine public pour l'installation et l'exploitation d'une fête foraine, ainsi que le stockage des véhicules des foraines qui sont liés à ce dispositif. Alors, vous avez sur l'exposé le tableau qui vous décrit les deux sites, le site numéro 1 avec l'accueil de la fête foraine sur un espace de 8200 m², le site numéro 2 avec l'accueil des remorques, des tracteurs et des caravanes des forains sur un terrain libre qui est d'environ 3800 m². C'est l'offre de l'association Organisation et Animation du Parc d'Attractions de la ville de Carnon qui a été retenue lors de cet appel d'offres, et ce jusqu'au 30 septembre 2018. Le montant de la redevance pour cette année est fixé à 27 000 euros, donc pour l'année 2018, avec une distribution qui est 22 000 euros pour le site numéro 1 et 5 000 euros pour le site numéro 2.
Donc, je trouve 5 000 euros, c'est pensé ?
Ah.
Ben, s'ils viennent avec les caravanes occuper un espace public.
Ben, je vais vous expliquer un petit peu comment on l'a calculé après, M. Frappon.
Oui, d'accord.
Hein?
Mmh.
Voilà. Donc, on vous propose de. Au moment de la conseil municipal, autorise la convention qui entre en vigueur à compter de la notification d'attribution et qui prendra fin le 30 septembre 2018. Elle sera renouvelable une fois sur autorisation express de la commune. Alors, vous voulez qu'on revienne sur le calcul, M. Papoulou ?
Oui, oui, oui. Parce alors, que les années précédentes, non seulement ils avaient l'espace public en bordure du canal, et, mais ils avaient pris aussi sur l'ancienne déchetterie. Il y avait des stationnements de camions et de remorques sur l'ancienne déchetterie. Alors, est-ce que c'est uniquement là où ils sont stationnés, c'est-à-dire le long du canal, ou est-ce que vous leur donnez la possibilité d'aller sur l'ancienne déchetterie ? Est-ce que ça fait partie
de que sur l'ancienne déchetterie, je parle parce que c'était moi qui l'étais avant, sur l'ancienne déchetterie, les camions, on les met pour pas que les gitans, les gens du voyage, investissent cette zone. Il y a eu une investigation.
D'accord.
De cette zone par les gens du voyage. Donc le seul remède qu'on ait trouvé, c'est de mettre des camions pour occuper le terrain pour pas que les gens du voyage puissent entrer. Voilà.
Ça, pour mettre un bon sens.
Mais, il faudra en mettre partout, je sais, mais pour l'instant, j'ai pas de camion, moi.
J'ai pas de camion.
Bon. J'ai une question. Donc c'est pas passé, c'est pas passé par la commission d'appel d'offres.
Mais si, je vais le dire.
Si.
Vous n'écoutez pas, M. Bondier. Je vais le dire.
Si, j'écoute. Mais on n'a pas vu passer en commission d'appel d'offres.
C'est pas une procédure formalisée au sens des appels d'offres.
D'accord.
Voilà. Il n'y a pas de convocation de commission.
Un appel
constitué en commission d'appel d'offres. Monsieur Gapelletti.
Oui, alors sur ce point. Donc, il y a eu un appel d'offres, mais il y a eu une commission, on a discuté, il n'y a eu qu'un candidat. Bon, ça veut dire que ça intéresse peu, celui d'un parc. Il intéresse peu parce qu'il rapporte peu. Et d'ailleurs, la convention, elle est très basse. C'est-à-dire, quand on regarde, j'ai une petite enquête sur ce que vous avez dû faire, des villes de taille similaire, c'est entre moyenne, c'est au moins 50 000 euros. Et encore, ça, on y arrivera. Quand on fait des enquêtes, les touristes, ça les rend dépressifs, ce n'est pas. Mais c'est vrai. Bon, admettre, j'enlève ça. Ça les rend tristes. Ok, pas dépressif, triste. Bon. Donc, bref, ma question, c'est quand est-ce qu'il va y avoir un projet pour changer ? Alors, soit un projet d'ampleur, on parle, pourquoi pas, avec Perrault, d'un appart moderne, enfin. Commencer à les faire aujourd'hui, soit changer carrément cet emplacement, mais pas rester sur ces petits appels d'offres qui montrent bien tout raccourci, qui montrent bien que ça va pas, quoi.
Les anciennes dispositions se sont enrichies cette année d'une contribution qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 20%, je suis de votre avis, ça n'est pas d'une attractivité folle. Néanmoins, nous avons milité pendant des années pour une station familiale, c'est-à-dire qui ne comprend pas dans son parc d'attractions des attractions gigantesques avec voilà.
La grande roue, oui, ça, oui, c'est très apprécié.
Voilà.
À
ce titre, bon, nous sommes en train de travailler sur un projet de ville à Carnon. Il va y avoir des réflexions, des consultations sur l'aménagement de l'espace public avec les Carnonais. Il y a aussi des discussions avec nos voisins de Pérol sur éventuellement un partage de cette animation. Ce sujet, je l'ai évoqué avec Jean-Pierre Rico. Nous devons l'évoquer avec les intéressés. Le contact n'a pas été formellement abordé, mais il le sera. Donc nous sommes dans une réflexion. Le sujet n'est pas scellé ad vitam aeternam. Bien sûr que non. Vous le savez, on est dans un process. Le document que vous avez en main atteste, si c'était nécessaire, que la vocation de la ville, de l'accueil et des animations sont en train d'être revues, revisitées. Voilà, tout à fait. On est dans cette démarche. On est dans cette démarche, si ce n'est que cette année, il y a eu la formalisation par un marché avec un appel, avec une consultation, alors que jusqu'à présent, il suffisait, si vous voulez, par tacite reconduction, de dire on fait comme d'habitude. Voilà. Bon, donc ça appelle un sujet différent. On ouvre une réflexion différente et la réflexion sera ouverte dès cet été. Voilà. Et le réaménagement, effectivement, des berges du canal est un sujet que nous avons à cœur. Bien entendu que, plutôt que de voir des véhicules stationnés, quand bien même, rendent-ils service par ailleurs, c'est un petit peu comme quand on a les forains qui viennent à Mouguio, mais à la cave coopérative, tandis que leurs attractions sont sur les boulevards. Bon, rien sans rien. Après, bon, c'est un choix, mais les Cardonnais sont également associés à cela. Voilà. On ne peut pas dire que ça les rend dépressifs, ça peut gêner certains, mais c'est aussi l'animation.
Non, c'est touriste.
Bon, c'est un sujet qui est... dont le débat s'ouvre. Voilà. On passe au vote, si vous voulez bien. Pardon, monsieur Pradaille, pardon.
Oui, moi, sur la manière dont on a traité ce dossier ensemble, j'ai souvenir d'être intervenu en janvier pour vous demander quel type de marché on allait avoir. Et on avait convenu ensemble que savoir si on ferait un marché par lot ou un seul lot, on le remettrait à l'ordre du jour du conseil municipal. Je vois qu'après que le marché soit passé et que les gens sont déjà installés, on nous fait ratifier la convention. Donc dans la manière dont on a travaillé ensemble, on n'a pas bien travaillé. Et c'est pas alors qu'on s'était dit oui, on peut rediscuter, savoir si on découpe ce marché ou
pas le découpage en deux
mots. Ben moi j'aurais adoré avoir votre point de vue sur l'opportunité financière et budgétaire pour la commune, sur l'opportunité en termes touristiques, j'aurais aimé entendre quelle était votre politique et qu'est-ce qui se passait par rapport à d'autres villes. J'aurais aimé que le débat soit simplement ouvert. Je constate simplement que la convention est reconduite avec les mêmes. Donc je suis interrogé par rapport à ça. Moi, je suis pas. Le fait qu'on renouvelle comme ça et que alors que la loi est passée, je trouve que ça n'a pas été un dialogue entre nous très ouvert. Et en plus, on a bien galégé, mais quand on discute de bateaux, vous êtes très précis sur comment on ventile l'électricité entre les petits, les moyens et les grands. Par rapport à des professionnels, sur les petits métiers, les moyens métiers, les grands métiers, vous êtes beaucoup plus, vous êtes beaucoup moins disette sur comment vous ventilez comment se ventilent entre eux, parce qu'on n'a aucune visibilité sur comment ils s'organisent entre eux. Par rapport à cette convention. Donc je trouve qu'on n'a pas bien fait ensemble notre métier de conseiller municipal alors que la question a été soulevée en temps et en heure au mois de janvier. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire.
Vous comparez deux choses qui appellent une observation tout de même. Le volume acquitté au niveau de l'électricité par le port est un volume qui n'a aucune incidence sur les richesses ou les recettes potentielles ou à venir de la commune, ni du port. C'est-à-dire qu'il y a une certaine somme qui était divisée, qui était portée par l'ensemble des amortisseurs, indépendamment de leur consommation. On a rétabli simplement au prorata de leur consommation pour le même résultat. C'est-à-dire s'il fallait obtenir 100 000 euros de facture, on est arrivé à payer ces 100 000 euros. On n'est pas, cette précision relève d'une question d'égalité. Ce que vous soulevez, effectivement, si l'attractivité des lots était telle qu'on puisse les séquencer en disant on met tel manège, tel manège, tel manège, pour monter le marché, c'était effectivement plus facile de faire un seul lot.
compte tenu quand même que cette année, on a rajouté une recette qui n'est pas négligeable, compte tenu du volume qui était demandé l'année dernière, quand même. Et dans la mesure où on a ouvert un marché, dans la mesure où on a fait une consultation, on ne peut pas dire qu'on ait voulu biaiser par une démarche particulière le marché en essayant de, à tout prix de reconduire les mêmes. S'il y a eu quelqu'un d'autre, un compétiteur ou un troisième, j'allais dire, la manière dont la consultation a été lancée plaidait davantage pour d'autres offres que ne l'aurait été un marché séquencé où vous auriez eu un pour la grande roue, un pour les auto-tamponneuses, un pour le train fantôme, des choses comme ça, vous voyez, compte tenu de la faiblesse par rapport, alors faiblesse relative, hein, mais de la modernité vis-à-vis de certains équipements à Palavas ou ailleurs. On est dans quelque chose d'assez tranquille, voilà. Il n'y a aucune malice. Hein.
C'est pas efficient.
Ben, c'est pour ça qu'on sera appelé à reparler de toute façon. Voilà. Donc, je vous propose quand même de voter, parce qu'entre-temps, il faut quand même voter. Ah, Madame Grèce, pardonnez-moi.
Je voulais juste être rassurée. Ce monsieur porte le même nom que l'avocat d'affaires mis en cause dans les affaires Balkany pour fraude, blanchiment de fraude fiscale. J'espère que c'est pas lui.
C'est pas lui.
C'est pas le même. Là. C'est un mythe.
Non, je dis Arnaud, je ne dis pas Arnaud. Non. Alors, à ma connaissance, non. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, contre. Contre. Abstention. Adoption pour les autres. Merci. Patti.
Le point 28 maintenant, il s'agit là des partenaires qui sont, des partenariats, pardon, qui sont passés dans le cadre de la Romeria pour cette 30e Romeria, ainsi que pour toutes les autres d'ailleurs. Plusieurs partenaires nous ont accompagnés sur cette édition, à savoir la SOR sur le concours de Paella, la marque des traditions pour la scène ouverte aux associations, Flamenco Passion 2 pour le concours de Sévillane et Intermarché pour l'ensemble de la manifestation. Vous avez dans le projet de délibération les sommes à laquelle les partenaires se sont alignés pour nous aider. Donc, ils ont proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer ces conventions précises.
C'est pas une question.
On passe au vote. Contre. S'abstient. Merci. On passe à la guitare.
Sans transition. Voilà, sans transition. L'organisation des internationales de la guitare pour l'édition 2016 pour sa 23e édition. Alors, dans le cadre de leur politique de décentralisation dans les communes régionales, les internationales de la guitare font la proposition de la diffusion d'un concert le samedi 6 octobre au Théâtre Passager à 20h30, un concert qui sera celui de Gilles Caplan. Dans une autre optique de rayonnement, la ville souhaite reconduire ce partenariat avec l'association Confluence afin que la commune bénéficie d'un concert de la programmation internationale de la guitare. Ce dernier se matérialise par une participation financière de la ville à hauteur de 5000 euros avec la mise à disposition du théâtre Passager pour les internationales. Le spectacle proposé est intégré dans le plan de communication dédié du festival et porté et financé par l'association Confluence. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat avec cette petite association.
Merci Patti. Donc, c'est les interventions de la guitare. Annonce, ce sont les premiers événements de la
l'ouverture de saison
de la programmation culturelle indoor.
C'est ça.
Voilà.
Indoor.
Bien, on passe au vote. Tu vas être d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 31, relatif
à l'association, qui est relatif à la billetterie, justement, des internationales. Ah, oui. Il s'agit ici de la billetterie sur la ville pour la vente des concerts, des places du concert de Gilles Caplan le samedi 6. Alors, en tant qu'organisateur du concert, l'association Confluence assure la mise en vente du concert et perçoit bien sûr l'intégralité de la recette. Avec sur place le soir du concert, des places à 21 euros pour le plein tarif et à 19 euros sur le tarif réduit. Cependant, la ville a des soucis de proximité avec nos administrés. Assure elle-même une prévente au service culturel à Morastel, ainsi qu'une billetterie en ligne à hauteur de 20 euros en plein tarif et de 18 euros à tarif réduit. Voilà, il est donc proposé aux membres du conseil municipal autorisé M. le maire à signer la convention de partenariat entre la commune et l'association Confluence pour la mise en place d'une billetterie sur la ville pour le concert de Gilles Caplan.
Merci. Je trouve que les places sont un peu chères, hein, même si c'est Gilles Caplan.
Alors, on est sur des places, là, on est sur un prestataire.
Oui, je suis d'accord, mais vous y allez à trois, ça vaut 60 euros. Moi, je connais plein de gens qui peuvent pas y aller à trois.
Et voilà.
C'est vrai que c'est le spectacle le plus cher de la saison, celui sur lequel on ne peut pas agir.
Tout à fait.
Budgétairement, on est dans les derniers tarifs qui sont à 12 euros.
14,
12 et 6. Mais là, spécifiquement sur ce spectacle, on n'a pas. Voilà.
Nous ne sommes pas l'organisateur.
Oui, non, mais j'en ai bien. Vous avez une possibilité de négocier peut-être un peu moins cher au niveau de ça.
Ouf, si vous
saviez.
Bon, nous avons
épuisé.
On a réussi à négocier quand même, reste dans le partenariat culture et sport solidaire francaire. Donc, on a un certain nombre de places qui sont proposées. Donc, on est en lien avec. Avec le COS, on est en lien aussi avec le CCAS, donc pour pouvoir proposer des places, un certain nombre de places qui sont mises de côté. Après, juste sur le tarif, effectivement, j'entends ce que vous dites. On est quand même sur un tarif qui est négocié parce que le même concert dans d'autres villes se joue plus élevé. C'est vrai que.
Je le constate tout à fait. Mais bon, peut-être que pour mon bio, 21 euros pour aller voir les sapins. En tout cas, maintenant, si vous voulez aller aux élites ou ailleurs,
Des associations qui mènent auxquelles on attribue le théâtre en tant qu'association pour avoir des spectacles qu'ils proposent eux-mêmes, qui sont bien au-delà des 21 euros, qui font ça.
Je n'en doute pas, madame, je n'en doute pas. Mais bon, c'est une réflexion personnelle par rapport à un environnement que je connais.
Bien, allez, je vous demande que nous passions au vote après cet échange. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 31, professeur.
Alors, on change de dispositif et de manifestation, puisque là, on est sur la fête votive et on parle de partenariat avec l'association Made in Egay. Donc, souhaitant continuer à privilégier les relations partenariales avec les bandes de jeunes qui participent à la fête votive et afin de créer une dynamique participative autour de cette manifestation, nous souhaitons répondre à la demande d'un partenariat qui émane de l'association Made in Egay, donc une bande de jeunes qui s'est montée en association et qui souhaite nous accompagner sur la journée de la jeunesse le mardi matin, c'est-à-dire qu'ils nous aident dans les arènes, déjà, physiquement, mais pas que ça, puisqu'au-delà de ça, ils se proposent de distribuer des t-shirts qui seraient estampillés au logo de l'association et de la ville, aux petits bouts de chou qui sont dans les arènes et aux bénévoles qui nous donnent la main sur cette manifestation. Cette association veut également être partenaire d'un Union Zéro pendant la fête 2018. Donc, il est donc proposé à M. le maire de signer une convention de partenariat avec l'association Made in Egay dans le cadre de la fête votive 2018.
Les possibilités de se rapprocher de cette association se font comment vraiment?
On
les contacte directement, ils ont une adresse, ils ont quelque chose comme ça. Vous avez une page
Facebook
qui
traîne par là, je pense
que vous pouvez les contacter. Ça peut être intéressant pour un petit fille, et j'aimerais avoir un peu plus d'enseignement par rapport à ça.
Pour
un petit
fille, je vous en parlerai, mais je ne suis pas policier,
vous voulez tout à l'heure, on pourra
en discuter. Avec plaisir. Pas de problème.
On passe au vote. Merci. Contre. Abstention. Je vous remercie. Programmation culturelle et tarifs pour 2018-2019.
Voilà, donc là, nous revenons sur les tarifs qui ne sont pas les tarifs issus d'une association pour une programmation culturelle, mais nos propres tarifs. Les spectacles qui sont organisés par la ville au théâtre Passager sont au nombre de 12 pour la saison 2018-2019. L'objectif de notre programmation de spectacles vivants et bien sûr de permettre l'accès justement au plus grand nombre à la culture et surtout privilégier la diversité des publics. Alors notre tarification, elle se veut modérée et accessible. Les tarifs sont identiques à ceux de l'édition 2017-2018, donc on travaille à niveau et place notre commune comme un lieu attractif en termes de tarifs, tout en affirmant une qualité de prestation. On conserve également l'abonnement qui a été mis en place depuis 3 ans, qui est maintenu sous la même forme. Et donc nous proposerons aux membres du conseil municipal d'approuver ces tarifs de spectacle vivant payants pour la programmation culturelle municipale d'octobre 2018 à avril 2019.
Une petite suggestion, si je peux me permettre. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à disposition des carnonnés, des navettes, hein, qui pourraient les amener ici pour avoir accès à ces spectacles, hein, parce que s'ils n'ont pas de moyens de locomotion, ils ne peuvent pas y avoir accès. Alors, je lance l'idée, est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Est-ce qu'il y a une possibilité de comptabilité de gens qui sont intéressés par le spectacle via le madame...
Alors, il y a une association qui s'appelle Marteau Plume, et qui, effectivement, peut-être pouvez-vous la contacter, monsieur Fapoli, mais qui participe à cet effort et qui, effectivement, rassemble des gens qui seraient intéressés par le spectacle pour faire du covoiturage ou autre. Donc
oui,
ça existe en termes de
solidarité. Par exemple, avec des personnes âgées qui ont à mobilité réduite ou à difficulté de déplacement, peut-être leur mettre à disposition une navette à un moment donné. Peut-être c'est pas un grand bus hein, de Transdev qu'on va chercher, mais peut-être un minibus de 9 places.
Je crois que le dispositif a déjà été effectué, notamment pour la Romeria. Concernant les carnonniers, on s'est inquiété de leur transport. Alors je ne sais plus si c'est il y a 2 ou 3 ans, mais une navette avait été mise en place, le dispositif a été abandonné, faute de combattants, j'en disais bien.
Voilà. Nous le faisons, alors, exceptionnellement pour les vœux, et nous n'avons pas la vocation de transporter, on n'a pas cette compétence, à supposer que l'idée soit une idée recevable, mais le transport à l'inverse, le jour où on a eu l'inauguration de la salle Rosa Parks, vous allez me dire, on était dans un volume et une jauge différente. On aurait pu faire la même chose pour les Malgoriens qui n'ont pas de quoi se déplacer pour aller à Carnon. C'est le problème de la mobilité que nous essayons de résoudre entre les deux pôles de vie de notre commune, tout simplement.
Non, je peux bien, monsieur le maire, mais ça peut être ponctuel en fonction des spectacles qui sont proposés. On fait passer, voilà, vous avez tel spectacle à Saint-Morastel, tel jour, à telle heure, avec les tarifs de place, et vous avez. Une possibilité pour les gens à mobilité réduite d'avoir une navette qui vous amène et qui vous ramène. Je sais qu'on aurait une difficulté de contrainte par rapport au chauffeur, mais c'est une demande qui m'a été faite par des gens de Carnot et je vous la fais remonter.
On n'a pas la compétence, je pense. Alors,
de l'instant où vous avez un véhicule adapté pour ça.
Non,
c'est perdu, c'est l'agglomération. Avec peut-être voir avec
l'agglomération. On n'a pas la
une suggestion à faire. Qui c'est qui est là hein. Au passeport, c'est monsieur l'agglomération. Le transport, c'est pas monsieur Achimien.
Non, je. Que ce qui est alors la culture n'étant pas une compétence intercommunale, il est difficile d'en organiser le fonctionnement pour une compétence qu'on n'a pas, et à supposer qu'on l'ait, on l'a droit. Si on l'a fait aux uns, on l'a droit aux autres.
Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on m'a
mais le transport.
Si on l'a soulevé, j'en prépare. Au conseil municipal. S'il y a des possibilités de mettre en place, pourquoi pas? Maintenant, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi.
Je peux préciser quelque chose parce qu'il y a des on-dit, comme dit, il y a beaucoup d'on-dit. Sur Carnon, on nous dit que les personnes n'ont pas le droit, n'ont pas la possibilité de prendre le transport pour venir, d'avoir un transport pour aller à l'épicerie sociale. C'est oui. Complètement faux. C'est complètement faux. Voilà. Donc il y a déjà, nous, au niveau CCAS, nous organisons du covoiturage, et s'il faut, l'équipe du CCAS a été chercher les personnes et les amener. Quant aux personnes qui ne souhaitent pas venir sur l'épicerie sociale, on leur amène directement, ils viennent chercher le colis alimentaire directement sur les lieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement faux.
Et le message est passé comment?
Mais on le dit aux bénéficiaires. Les bénéficiaires le savent, quand ils reçoivent la lettre, hein, on leur explique qu'ils viennent auprès du CCAS et on met en place le système qui leur convient à eux le mieux.
Vous avez une gestion de nom au niveau du CCAS que vous pouvez
faire. Exactement, voilà. D'accord. Parce que je m'inscris en faux sur ce qui peut être dit, comme beaucoup de choses sont dites. Hein.
Je n'ai pas dit quelque chose de faux.
Non, non, je sais, mais ce n'est pas pour vous, Léon dit bruit.
D'accord. Bien. Allez, on passe au vote. Qui contre? Qui s'abstient? Adopté? Eh bien, rien à faire que tu as la bouche ouverte, tu peux y aller.
Et je la ferme entre deux. Alors, au niveau des événements en faveur de la jeunesse, donc c'est une convention de partenariat qu'on renouvelle avec le Groupama. Donc, c'est un partenariat d'un montant de 650 euros pour deux temps festifs qui sont la soirée Wake Up. Il y a le live vendredi 29, donc de 20h à 1h avec MC Fiotti, le monsieur qui a les cheveux bleus, là, boum boum tam tam. C'est toi qui as les cheveux bleus. Ouais, c'est ça.
DJ Get Down.
Et puis la deuxième action phare qui est Pause Alco, donc pour sa 13e année, si je ne me trompe pas, qui est donc sur la fête votive du 11 au 19 août. Hein. Donc il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver cette convention de partenariat et de l'autoriser à la signer.
Bien. Rendez-vous le vendredi 29 juillet à 20h. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Suite, j'ai toujours la bouche ouverte. Donc, dans le cadre du permis de conduire, vous savez qu'on a déjà une bourse au permis. Là, on met en place un nouveau système cet été, qui est donc un stage intensif, une durée de 5 jours du 2 au 6 juillet, puisqu'on a mis en place un dispositif encadré, un partenariat avec l'auto-école Bellevue, à un tarif préférentiel. Donc le code vaut 300 euros, Bellevue le propose à 150 euros, plus 30 euros de frais d'inscription à l'examen du code de la route. C'est fait dans les locaux du pôle jeunesse et l'auto-école s'engage à informer donc le pôle jeunesse et médiation de la réussite au code des 10 jeunes, des 10 DITS à 10, et leur donne la possibilité de poursuivre à l'auto-école, là aussi à un autre tarif préférentiel. Donc on est dans la même politique pour essayer d'aider au maximum les jeunes. Donc il est donc proposé d'approuver cette convention de partenariat et de l'autoriser à la signer.
Les jeunes peuvent bénéficier de la bourse, c'est tous les jeunes?
Non, il y a des critères. On l'avait déjà passé. Hein. C'est en fonction de critères. Donc il y a un critère par rapport à l'insertion professionnelle, il y a un critère par rapport aux revenus, il y a un critère aussi qui est très important par rapport à l'investissement que les jeunes ont par rapport à leur dossier. Voilà. Simone est avec nous à chaque fois et des fois voilà, on peut ne pas donner parce que le jeune n'est pas suffisamment investi dans son projet professionnel, c'est pas suffisamment encore carré, et donc ça nous donne aussi un moyen de dynamiser un petit peu tout ça et de les suivre.
Bien, on démarche, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Claverie, Christian.
Dans le cadre du jumelage avec la ville de Midoun et de Djerba en Tunisie, nous avons reçu du 8 au 12 avril une délégation tunisienne de la ville, une délégation de fonctionnaires qui était conduite par un sous-préfet qui représentait la commune, puisque les élections n'avaient pas encore eu lieu et la commune était gérée par le sous-préfet. Et ils sont venus pour prendre connaissance des fonctionnements de la ville de Mogio, notamment dans le domaine des espaces verts, les domaines financiers et les services techniques et le fonctionnement général de la commune. Cette délégation a été reçue par la mairie et par les membres de l'association méliorienne Amitié Franco-Tunisienne. Il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder au versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 euros au profit de l'association Amitié Franco-Tunisienne pour leur participation à l'organisation de cet accueil.
Très bien, je précise que le nouveau maire de Midoun s'appelle M. Rida Ben Younes.
vient d'être désigné récemment. On passe au vote. Contre, abstention. Merci pour l'association. Jean-Albert, il parle de la fête du sport et du mécénat.
Approbation des conventions de mécénat dans le cadre de la fête des sports. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre du développement de la fête des sports, une recherche de partenaires privés est engagée par la direction du sport éducation. Cette aide se traduit de la manière que vous exposez sur le projet de délibération qui vous est entre vos mains. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'adopter les conventions de mécénat et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions.
Bon, c'est une disposition classique tous les ans. On se vote contre, abstention. Merci. Je continue.
Encore moi.
Avec tout l'argent que tu ramasses.
Subvention exceptionnelle pour les 40 ans de l'association Joyeux Camerounais. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que l'association Les Joyeux Camerounais fête les 40 ans d'existence du peuple le samedi 15 septembre sur le port de Camon. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle de 300 euros pour soutenir l'association et l'organisation de cet événement. Ça avait été prévu en début d'année, ça. Hein.
On passe au vote. Contre, abstention. Merci pour eux. Sophie Campagne nous parle de l'école de musique.
On touche une petite coquille dans l'exposé. L'école de musique de Montmartre n'est pas municipale mais associative. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que l'école de musique, association qui développe une offre qualitative d'éveil et d'apprentissage musicaux en coopération avec la municipalité, a engagé depuis 2017 une réflexion sur son modèle d'enseignement et ses grilles tarifaires. Au regard de ce contexte d'évolution des services et des actions que porte l'école de musique de Montbiot-Carnon et du partenariat établi avec elle, il semble pertinent d'abonder son plan de financement à hauteur de 13 000 euros pour 2018 via une subvention exceptionnelle et d'engager un prêt de 7 000 euros qui sera remboursé par l'association d'ici la fin de l'année civile. Monsieur le maire propose donc d'octroyer une subvention exceptionnelle à l'école de musique de Montbiot-Carnon pour un montant de 13 000 euros et un prêt de 7 000 euros remboursable d'ici la fin de l'année civile.
Merci Sophie. Question. Monsieur Capelletti.
Alors j'aime bien le langage utilisé, ça veut dire qu'il y a un trou de 20 000 euros. Donc j'aimerais. C'est le financier qui parle. Pourquoi et est-ce que. Qu'est-ce qui va être fait pour corriger. J'imagine qu'il va y avoir un dysfonctionnement structurel, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui va être fait pour corriger l'association se pérennise, parce que c'est très important pour la ville, bien sûr.
Alors déjà, on a travaillé en partenariat avec eux. Ils ont bénéficié d'une étude dont vient de leur faire part des conclusions avec un certain nombre de propositions d'amélioration. Il faut savoir que le conseil d'administration a été intégralement renouvelé cette année, donc en 2017. Effectivement, ils ont eu une problématique dans la gestion avec un manque de rigueur au niveau notamment de la perception de certaines cotisations. Donc le bureau actuel a pu mettre en avant les différentes erreurs qui avaient pu être commises. D'autre part, il s'avère qu'ils ont confié à un comptable donc la prise en charge d'un certain nombre d'éléments de gestion et dans le cadre notamment d'une déclaration d'URSSAF, il se trouve qu'ils ont versé une somme beaucoup trop importante et ils sont donc dans l'attente de la rétrocession de cette somme. Donc ils vont récupérer une partie, c'est ce qui correspond aux 7 000 euros qu'on leur avance, ils ont besoin de l'avance de trésorerie, qu'ils vont encaisser d'ici la fin de l'année civile. Et après, pour les accompagner le temps qu'ils redressent, on leur octroie une subvention exceptionnelle de 13 000 euros.
Avec une clause qui prévoit qu'on se voit trois fois dans l'année, régulièrement, pour faire le suivi et aider les personnes qui ne sont pas des professionnels à la gestion d'un outil qui peut vite déraper. Quand je dis d'un outil, d'un dispositif, vous êtes très bien compris.
Pour la ville, si on ne reste pas deux fois, la troisième, il y a M. Capelletti qui vient.
Exactement.
Mais pas gratuitement.
Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Pas de précédente. Monsieur Albert, vous nous parlez du rugby.
La municipalité souhaite apporter un soutien financier au club de rugby de Montbiot-Carnon, Pays de l'Or, au regard des dépenses et des dépassements générés lors de la finale GT1 de France junior à Romagnac dans le Puy-de-Dôme. Monsieur le maire propose d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 700 euros. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le versement de cette subvention exceptionnelle, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les deux conventions.
Merci Jean.
Par quoi ?
On passe au vote, contre, abstention. Je vous remercie. Tu continues toujours.
Juste une petite aparté.
Monsieur.
On aurait bien aimé être présent quand vous les avez reçus en mairie. On n'a rien reçu. Je n'ai pas reçu d'invitation, j'aurais bien aimé fixer le plan de choses pour les dimanches. Ça m'aurait fait plaisir.
Les membres du conseil, vous êtes avertis ?
Non. Personne.
C'est toujours le tableau.
Si, désolé.
Non.
Vous avez regardé sur vos tablettes ?
Oui.
C'est costaud, les gens, mais j'ai l'intérêt.
C'est jamais le 33. Moi, j'ai demandé à ce que vous soyez pas.
L'information ?
Si, si, on l'a envoyé.
Non.
Mais on peut avoir envoyé, mais je n'ai pas reçu. Le 9, ça s'est fait pendant la romerie, mais bon, il y a eu un moment. C'est ça. Bon. Je suis très étonné par ce que vous me dites. C'est pas d'acte volontaire.
Ah.
Il disait que non, il a reçu. Bon, je sens que je vais faire des enquêtes, moi. Allez, on passe maintenant au point 40, Jean, s'il te plaît.
Mise à l'exposition gracieuse de la salle Morastel le jeudi 31 mai 2018 pour l'association Artiviste Atelier. Tout à l'heure, le maire en a parlé, c'est un truc qui a eu lieu. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la ville de Mouillot-Carnon, en partenariat avec l'association Artiviste Atelier, co-organisatrice, a programmé une conférence sur le thème Air, Santé et Citoyenneté sur mon territoire, le jeudi 31 mai à 19h, à la salle Morastel de Mouillot. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la mise à disposition gracieuse de la salle pour cet événement. Et effectivement, quand des partenaires avec pour un événement, on peut se permettre de faire un
don de la salle. On peut offrir la gratuité, voilà. Et je rappelle que c'est une soirée intéressante où les citoyens, en dehors d'une instance délibérative comme le conseil et la communauté d'agglo, peuvent participer et apporter leur pierre à l'édifice sur les thématiques de l'incinérateur et du CNS 89 pour le citer que c'est deux sujets. On passe au vote si vous voulez bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Monsieur Tricoire, on nous parlait du comité technique. Laurent ?
Oui, donc comme vous le savez, merci monsieur le maire. Le 6 décembre auront lieu les élections professionnelles et afin de permettre le renouvellement des instances qui siègent pour fêter, après consultation des syndicats bien sûr, nous renouvelons ce qui était déjà en place, c'est-à-dire un bureau paritaire avec 4 titulaires pour les représentants du personnel et 4 suppléants. 4 titulaires pour les représentants de la collectivité et 4 suppléants, et le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Rien de particulier, je vous promets de voter pour le comité technique.
Oui, tout à fait, c'est réglementaire.
C'est réglementaire.
On n'invente rien. On passe au vote, si vous voulez bien. Contre, abstention. Je vous remercie. Avant de passer au point du 42, je précise que l'envoi de l'invitation, je l'ai sous mes yeux, a été fait le 5 juin à 17h27 à tout le conseil municipal. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, le plaisir de vous inviter au spectacle équestre de Feu de Liberté qui aura lieu ce vendredi 8 juin à 22h30 aux Arènes. 2 places par élu seront retirées à partir de mercredi après-midi à l'accueil de l'hôtel de ville au plein sud Bastide. Deuxièmement, à la réception organisé à l'honneur de l'équipe junior du rugby club Mouillot-Carnon Pays de l'Or, championne de France, qui aura lieu le samedi 9 juin 18h30 à la salle des mariages. Bien cordialement. Quand on vous le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. C'est pas. Je parlais de démocratie tout à l'heure, hein, et le respect de la démocratie, c'est l'équipe de Mouillot-Carnon, c'est pas l'équipe des groupes municipaux, tout simplement. Voilà. Une preuve supplémentaire de notre ouverture d'esprit. Que je souhaite m'en partager par tout le monde. Laurent.
C'est du 14.
Contact.
Non, ça, c'est pas moi, non, c'est pas moi. J'ai pas lu.
Monsieur.
Ça se réduit.
Laurent, s'il te plaît. Sinon, on va terminer tard. Point 42, c'est le même schéma que le 41, sauf qu'on va parler du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Pareil, après les élections d'ici, pour préparer les élections d'ici décembre, l'autorisation dans les mêmes conditions pour renouveler le bureau. Donc, on passe au vote.
On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Point suivant.
Ah, c'est moi. Alors, modification du tableau des effectifs de la régie du port. Alors, vous le savez que depuis que le port est passé en régie autonome, le recrutement des entrants, c'est un recrutement de personnes de statut de droit privé. Ce ne sont plus des fonctionnaires territoriaux que nous recrutons. Ainsi, monsieur le receveur nous oblige à préalablement délibérer pour autoriser chaque fois les recrutements des personnes qui se font pour titre de droit privé et ne se font pas de manière naturelle, j'allais dire, mais c'est pas quelque chose surnaturel, là, mais disons, c'est une disposition administrative qui doit m'autoriser. C'est un formalisme qui dit que tout poste créé ou tout poste qui est pourvu par un agent qui n'est pas de la fonction territoriale sera un agent de droit privé, ce qui a des conséquences sur la rémunération des 10 agents. Voilà. C'est la même chose que le tableau des effectifs, oui. Mais un motif de la même punition. Il faut créer l'emploi, on crée l'emploi. On ne recrute pas forcément. On substitue à quelque chose de traditionnel, quelque chose de nouveau. Pour le même, pour une personne qui est un statut de droit privé. On le vote. Monsieur Prodeil, oui.
Sur il reste des fonctionnaires, si je comprends bien.
Oui. Ceux qui sont en place.
Et
les nouveaux noms.
Les nouveaux noms, mais les anciens.
Oui.
Sur les anciens, qu'est-ce qu'on. Il y a des échanges en ce moment sur ce qui est faisable. Qu'est-ce qu'on fait? On les maintient fonctionnaires? Quelle est votre doctrine? Je pense que si j'ai bien compris, vous avez eu quelques consultations.
Ils ont le choix. On a rencontré les agents du port, ils ont le choix. C'est-à-dire que, quel que soit le mode de gestion du port, on leur dit, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes des agents de la fonction territoriale, avec un avancement qui est spécifique, soit vous passez dans le statut de droit privé, avec une forme de détachement, ou une forme de disponibilité. Voilà. Il y a deux options qui peuvent être intéressantes. L'une qui est renouvelable tous les 3 ans et l'autre qui est renouvelable tous les 5 ans. Voilà. Donc le fonctionnaire choisit son statut. Sinon, il peut démissionner et être recruté sous une convention collective des ports de plaisance.
Bon. Là, j'imagine qu'on a mené quelques consultations. Ceux qui veulent rester fonctionnaires, ils restent fonctionnaires et.
Ils ne se sont pas encore tous déterminés.
Il n'y a pas de plan. Bon, mais c'est.
C'est ouvert.
C'est un... Enfin, vous avez. J'imagine que c'est un dialogue très ouvert et très.
Bien sûr.
Qui dans notre très souple.
Bien sûr, oui. Il n'y a aucune contrainte, la jeune.
Donc là,
le couteau, je m'en sers comme pour la bouteille.
Non, non, mais la position du conseil municipal, c'est que c'est ouvert et qu'il n'y a pas de.
Absolument.
Et que chacun fait comme il veut.
Chacun.
Il
n'y a pas d'obligation. Absolument. Absolument. On passe au vote, si vous voulez bien. Contre, abstention. Il n'y en a pas. C'est parfait. Merci. Ce tricot, on reprend la main. Laurent.
Donc, point 44, indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture des 2 pages qui suivent, tout à fait réglementaire. Vous avez quelques tableaux sur les catégories concernées, comment on prévoit le dépassement du contingent mensuel de 25 heures et pour quels motifs, intempéries et autres. Donc, sauf question, je vous propose de passer au vote.
Contre, abstention, merci. Personnel de nuit.
Donc, point 45, indemnité d'astreinte des agents de la commune. Pareil, c'est clair, bien expliqué, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est tout dans les textes. Ce sont des dispositions légales. C'est des dispositions légales et je vous demande, sauf question, de passer au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Point 45. 46. C'est la 45. Ah oui. Non, mais je vais voter. 46.
Juste une petite question.
Oui.
Je vois que sur le personnel que vous nommez là, sur les indemnités horaires de travail du dimanche et pour férié, vous mettez la SNSM. Vous n'avez pas, un contrat directement sur la présence dans les postes, parce qu'à l'époque, la SNSM était payée sur une vacation qui passe 8 heures ou 12 heures.
Alors, la vacation SNSM, c'est un contrat que l'on prend à l'année et il arrive ponctuellement, très rapidement, que sur demande du CrossMed. Oui. Donc une instance qui nous échappe complètement, qui gère les affaires maritimes ou la direction départementale d'incendie et de secours, les postes soient prolongés le soir
oui.
par météo. Et donc c'est deux jours par an, oui. par saison, et ça, ces horaires-là ne sont pas dans le contrat. Et donc c'est pour ça qu'on les a prévus, parce que quand même ce sont des jeunes qui sont dévoués à la surveillance des plages, mais quand ils font après 10 heures au soleil, ils en font deux de plus, une fois. Oui, voilà. Donc je trouve que c'était.
Je connais, mais à l'époque, c'était pas comme ça.
À l'époque c'était un contrat de surveillance générale. Mais à l'époque, quand il pleuvait, les sauveteurs rentraient. Maintenant, il y a une présence tout au long de l'année, quel que soit. Enfin, donc, de l'été, pardon.
C'est des nouvelles directives.
Oui, ça a toujours été. Puis on est pour la protection quand même de l'agent. Une heure travaillée mérite d'être.
C'était à la discrétion des ménages.
Je ne sais pas si je comprends.
Oui, oui.
Une heure de travail mérite d'être une heure.
Quand je travaille une heure supplémentaire à mon travail, j'apprécie que mon patron me l'aime. Donc j'estime que pour les agents là, c'est.
Vous avez une municipalité qui exerce sa responsabilité sociale.
Bien, monsieur Prandé, pour une fois, je ne vais pas vous applaudir, mais j'abonde.
Vous voyez qu'il y a plus à l'ouche pour vous, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le
Allez, si vous voulez bien, on passe au point 46. On passe au vote d'abord. Ah oui, le vote. Qui est contre ? Merci. 46. Le point 46. Ah voilà, ben, déjà voté.
En ce qui concerne le 45,
le 45 est voté.
Non, c'est pas ça. C'était au niveau des astreintes.
Oui.
Du personnel municipal. Comment ça se passe au niveau des astreintes ? Est-ce que vous avez un tableau sur lequel des volontaires se manifestent ? Est-ce que ça se fait au niveau d'une présence par rapport au chef de service ou est-ce que c'est un volontariat comme ça qui est géré en fonction de la demande ?
Non, les astreintes, elles sont mises en place par rapport déjà à un besoin.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas l'agent qui dit je veux être aux astreintes. C'est le besoin qui crée l'astreinte. Et si on a besoin d'un policier ou d'un agent technique pour être aux astreintes pendant la fête parce que le tableau disjoncte parce que tout un tas de raisons, on crée l'astreinte et les gens compétents dans leur profession, dans leur métier, par l'intermédiaire de leur chef de service, c'est géré comme ça. Moi, je ne connais même pas comment les gens s'inscrivent. Voilà. C'est par le chef de service qui référera.
De nouveau, je vous pose la question parce que j'étais sollicité par des employés municipaux qui me disent j'aimerais bien de temps en temps faire la fête parce que ça m'a rendu un peu les fins de mois et je constate que bien souvent c'est toujours le même. En tant que moi je vous le fais passer comme on l'a fait passer, peut-être que faudrait être un petit peu vigilant par rapport à cette gestion. Après, je ne sais pas comment ça se passe.
Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir, prenez rendez-vous auprès de moi et qui vient nous voir. Il faut qu'il rentre dans le champ de compétences. Si on a besoin d'électricien spécialisé en hauteur, par exemple, tout le monde ne peut pas être.
J'entends bien.
Pas de problème, vous l'orientez, je le recevrai.
D'accord, je prends note.
On passe au vote. Qui contre ? Qui s'abstient ? Merci. On est au 46, 47.
47.
On a fini, toi, Laurent.
47.
On est au 47 ?
Ouais.
Dominique, c'est pas le moment.
Là, tout simple pour faire court, c'est une convention qu'on a avec l'amicale et financière de Clermont. Ils ont acheté une catalane et ils aimeraient la mouiller dans l'avant-port de Carnon. Voilà. Donc aussi une convention avec eux sur la gratuité, et elle mettra après à disposition de la commune pour les manifestations sur ce catalan.
Même le petit peu, mais gratuitement.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
On a fait le sable, monsieur Prédeil. J'ai appris que ça s'appelait un mouillage forêt.
Voilà.
C'est joli, hein. Sans d'électricité. Pas d'eau, pas d'électricité. Et il mouille quand même.
Et il mouille.
Pas beau, ça.
Et le 48, il faut voter. Il faut voter.
Qui est contre, qui s'abstient. Merci pour la belle caramelle.
Et le 48, pour reprendre le courant du conseil, c'est sur la délibération 18, où on a mis en place la redevance électrique au-delà de 700 kWh. Là, c'est de mettre en conformité le règlement du pont. Voilà. Le règlement du pont. Voilà. Demande de le voter.